J'ai toujours eu l'image du moine zen, frêle, illuminé, en harmonie. Loïc n'est rien de tout ça. Sa vie a été ponctuée de chaos et d'excès de toutes sortes. Certains vertueux, comme la folie des profondeurs, d'autres moins, comme celle du whisky. Recordman suisse d'apnée, il a aussi passé 25 000 heures assis à méditer en zazen. Une pratique qui a forgé la force de son mental, mais surtout sa discipline. Pourquoi s'imposer autant d'heures à souffrir, droit, devant un mur, seul face à soi-même? Trouver la sagesse? L'illumination? Comprendre ce qu'est l'équilibre? Sa philosophie de vie est bien loin des réponses évidentes que nous aurions imaginé donner à ces questions. Et c'est ce qui en fait toute la richesse. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute! Bonjour Loïc!
Bonjour David!
Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ce matin? C'est quoi ta routine du matin pour te sentir bien souriant et plein d'énergie pour la journée?
J'attends un petit peu avant de sortir du lit. Quand je sens le réveil de ma conscience, je m'allonge, je croise les bras, je croise les jambes et puis je fais une dizaine de respirations pour ramener un petit peu toutes les parties de moi-même qui ont été dispersées éventuellement pendant la nuit avant de sortir. Et puis ensuite, ça dépend. Moi, j'aime bien un café, hein. J'aime bien un café pour le bruit de l'eau qui frémit, l'odeur du café, j'aime bien ça. Puis après, je m'assieds, je bois un café, je prépare un drink, un ou deux drinks, gingembre, curcuma, citron. Et je m'assieds, je respire. Éventuellement, je pratique zazen. Pas tous les matins. Donc je m'assieds, je m'étire, je respire, j'hyperventile. Je fais les exercices que j'ai prévus pour cette matinée. Ça prend peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Et à partir de là, je suis plus capable de prendre des décisions. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est la routine minimum, c'est 30 minutes de ventilation assez intense et d'exercice respiratoire en buvant du jus de citron, curcuma, gingembre et en prenant les vitamines.
Et ça, cette pratique respiratoire, tu la pratiques parce que c'est important pour ton boulot et la préparation de records d'apnée, etc. Donc, tu le vois comme une routine de travail ou bien c'est parce que tu as l'impression que ça t'aide à avoir une meilleure acuité et de te sentir plus conscient, plus en énergie pour ta journée?
Alors, la chance que j'ai, c'est d'avoir un travail qui requiert une vitalité assez prononcée. Donc, je suis obligé à cause du boulot, bien entendu. Je suis obligé à cause du boulot de me mettre en forme le matin parce que c'est pas jouable d'aller dans l'eau ou préparer des records sans avoir véritablement ramené toutes les pièces du puzzle. Mais en fait, au fur et à mesure où ma vie se modifie justement avec ce travail, ces records, ces activités, je me rends compte que c'est vraiment important de veiller à sa vitalité. C'est un petit peu bizarre parce que je me rends compte de ça après plusieurs années de pratique de la méditation, que c'est vraiment important pour soi de veiller à sa vitalité. Mais j'aime bien me laisser aller aussi. Donc quand je suis pas obligé, je prends aussi des day off. Donc je dirais que c'est plus parce que je suis obligé. J'ai forgé une vie où ce genre d'exercice est devenu obligatoire.
Mais pour autant, tu remarques un véritable impact sur tes niveaux d'énergie et sur ta vitalité?
Ah oui, bien entendu. On se connaît pas, mais j'ai perdu en l'espace de six ans, j'ai perdu à peu près 30 kilos. Je suis en pleine forme physique, je récupère de la fatigue beaucoup mieux, donc bien entendu que je note un changement sur ma vie qui est considérable. Les exercices respiratoires sont les premiers exercices qu'on veut faire quand on veut reprendre en main le véhicule, je dirais.
Pourquoi, tu vois, je veux dire, le premier réflexe, ça serait de modifier, d'améliorer peut-être son équilibre alimentaire, de se remettre au sport, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que la respiration est plus intéressante?
Parce que c'est la seule chose qu'on fait tout le temps et qu'on peut maîtriser facilement. Ok, l'alimentation, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui mangent une fois par jour, il y en a qui mangent jusqu'à 5 fois par jour. Donc c'est des moments ponctuels. C'est difficile de gérer l'alimentation, par exemple, parce que ça veut dire la digestion. Puis une personne est différente de l'une à l'autre. Ou alors l'hydratation, tu vois, on peut pas véritablement, disons le minimum vital, ça serait de boire 3 décis d'eau par jour. Le maximum qu'on puisse boire peut-être, c'est 5 litres. Donc ça offre une fenêtre de travail qui est pas très grande. La respiration, un être humain normal, il respire, bah voilà, pareil, 3 décis par inspiration et par expiration. Peut-être un demi-litre. Et puis suivant la vitalité des gens, il y a encore un volume mort, donc très peu. Ok, vraiment, limite les gens sont tout le temps essoufflés. Ok, et si tu fais l'effort, si la personne qui veut se rééduquer fait l'effort de, par exemple, aller à, disons, 2 ou 3 litres, à la fin d'une journée, à la fin d'une journée où on fait un tout petit effort de proprioception, on a une différence qui est considérable sur la vitalité. Une différence qui est considérable sur la vitalité. Alors, je me rappelle plus exactement des calculs, mais regarde la différence entre une personne qui va respirer peut-être 3000 fois 3 décis dans une journée, dans 24 heures, et une personne qui va respirer peut-être 1500 fois 5 litres. Alors, il faudrait vite faire le calcul. Tu sais, si on était chez Joe Rogan, quelqu'un ferait vite le calcul et nous dirait la réponse. Mais je pense que ça va du simple au quintuple ou 10 fois. C'est facile de respirer 10 fois plus que ce qu'on a l'habitude. Et donc, si on veut véritablement se rééduquer soi-même, c'est l'exercice physique le plus simple, le plus accessible à tout le monde, puisque tout le monde respire et tout le monde est capable de modifier le rythme respiratoire, la quantité à l'inspiration, à l'expiration. Même quelqu'un qui est alité, hein, il peut rééduquer simplement en respirant. Donc, je pense qu'il faut commencer par là. L'alimentation, l'hydratation, c'est nécessaire, bien entendu, de boire de l'eau. L'alimentation, moi je suis très 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 pointilleux, je suis une catastrophe en matière d'alimentation. Donc c'est vraiment pas le critère qui va changer les performances. C'est vraiment la respiration.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Et donc, tu as l'impression, quel type d'exercice tu fais le matin? C'est de l'hyperventilation dans des grandes inspirations, des expirations passives. Et tu as l'impression que le fait d'avoir un schéma respiratoire et une pratique consciente le matin pendant une demi-heure conditionne toutes les autres respirations que tu vas avoir pendant la journée? Parce que tu as bien montré comment est-ce que respirer moins, mais de plus gros volumes d'air pouvait avoir des avantages, mais la respiration, la plupart du temps, elle est inconsciente. Donc, comment est-ce que le fait de la travailler le matin la modifie pour le reste de la journée?
Ok, alors prenons l'affaire avec des pincettes. Moi, je suis un athlète apnéiste. Ok, donc les exercices que je fais le matin, ce sont des exercices d'athlète apnéiste. On est tous un petit peu fous, hein. Les apnéistes profonds sont tous un petit peu fous. Donc les exercices que je peux partager, c'est les miens, c'est personnel. Je recommande à personne de les essayer sans avoir, disons, une éducation de la respiration un petit peu avancée. Donc moi, le matin, j'hyperventile, je me laisse 20 minutes, je mets le chronomètre parce que c'est important de connaître les chiffres. Je laisse le chronomètre. Et je vais hyperventiler jusqu'à la perte de contrôle moteur, c'est-à-dire jusqu'à ce que je secoue. En fait, je vais additionner les exercices d'hyperventilation avec des exercices de compensation des oreilles et d'augmentation de la pression artérielle dans la tête, et puis des étirements spécifiques. Et en fait, je vais forcer la perte de contrôle moteur d'un hémisphère ou d'un autre hémisphère pour volontairement décrocher ma conscience, ok, et me batailler avec la perte de conscience. Ça, c'est extrême, c'est hyper dangereux. C'est pour ça que je le recommande à personne. Mais en fait, l'apnéiste profond, il a l'habitude de ce genre d'état d'esprit quand, par exemple, on remonte d'une plongée profonde et qu'il faut encore faire le protocole de surface. Il faut avoir une maîtrise de son inconscient qui est assez développée. Quand bien même le corps répond plus, il faut forger des automatismes profondément. Maintenant, l'avantage que ça représente pour moi, c'est que quand la conscience elle se décroche et que le corps la rappelle, alors je suis pas disons une pointe en matière de science, mais il y a des réactions physiologiques qui se font dans le corps qui sont extrêmement intenses et qui à mon avis sont véritablement un bénéfice pour la vitalité. La vitalité hormonale, la vitalité respiratoire, et puis, disons, tous les neurotransmetteurs. Je pense que ça rééduque aussi mon système dopaminergique, parce que je me mets dans des états très intenses. Voilà, ça, c'est ce que je fais pendant 20 minutes. Ok. Et puis c'est très intéressant d'observer l'avidité de la conscience, hein, qui a envie de retourner dans le corps. C'est vraiment perturbant pour le système, mais ça me permet de revenir à moi-même et de me dire de me dire un petit peu oula, va peut-être falloir arrêter de faire le malin là. Ok, ça remet dans les bottes. Et puis après ça. Bon, ça dépend des objectifs et puis, disons, de l'organigramme de l'entraînement. Mais une de mes activités favorites, c'est de pratiquer Uddiyana Bandha. C'est le rappel du diaphragme en apnée en suivant des séquences de rétention de souffle et de respiration, ce qu'on appelle une table CO2. Okay, c'est un exercice pour augmenter la tolérance au CO2. Que je fais poumon vide en rappelant le diaphragme dans la cage thoracique. Ça me prend peut-être 16 minutes. OK. Après quoi, ça dépend de la journée, mais après quoi, j'aime bien rester assis une vingtaine de minutes en zazen pour simplement profiter en fait d'intégrer tout ça dans la méditation. Et puis ça me fait une bonne heure, de 7h à 8h du matin, c'est super.
Et donc là, tu me disais avant qu'on démarre l'enregistrement que tu préparais un nouveau record d'apnée. Si on voit ta petite routine de préparation, en réalité, elle dure 1h30. Donc après, ta journée, elle est finie et tu te reposes.
Non, ça c'était parce que je pense que je me le rappelle que tu me demandais comment je démarrais ma journée.
Bien sûr, non mais c'était une blague.
Donc c'est le décalaminage de la machine. Ok. On arrive à 8h, suivant mes activités, faut que j'emmène ma fille à l'école ou que je m'occupe de tâches quotidiennes, être un papa, donc préparer le petit déjeuner, l'aider à faire son sac, l'emmener à l'école, et puis éventuellement ça me fait une coupure dans le départ de la journée, puis après à 9h je peux m'y remettre. Généralement quand je m'entraîne pour un record, l'entraînement, il est l'accès à l'eau, il est vers 2h de l'après-midi. Puisque le record, je vais le faire dans les 2-3h de l'après-midi, c'est bien que je me fixe sur cette heure-là. Donc ensuite, de 9h jusqu'à l'heure de partir à la plateforme, ça veut dire 9, 10, 11, 12, jusqu'à midi, ça veut dire 3h de plus. Alors là, je vais enchaîner d'autres exercices, des exercices de compensation des oreilles, d'autres exercices de respiration, éventuellement des étirements thoraciques, et puis aussi simplement de la préparation mentale, de rester calme, de faire la répétition de comment va être ma plongée, et puis puis ensuite il y a tous les nettoyages, sinus, oui, c'est un bronx, c'est infini, ça n'en finit pas, quoi. Ça veut dire peut-être 4 heures, 4 heures, 4 heures et demie de préparation avant d'aller dans l'eau. Ou pendant 1 heure, je vais pouvoir me consacrer à la plongée profonde où je vais faire un échauffement, généralement un échauffement, et ensuite une plongée profonde. Mais ça, c'est dans le feu de l'action. Ça, c'est à 3 semaines déjà de la compétition. Peut-être 1 mois, c'est les entraînements comme ça. Après, quand je reviens de l'entraînement, il faut se reposer, se reposer, se reposer, parce que c'est pas de tout repos, en fait. C'est pas de tout repos. Les gens disent l'apnée, c'est un peu une méditation. Je voudrais les voir une fois qu'ils ont la tête sous l'eau, parler de méditation.
Parce que là, les apnées en entraînement, tu disais, tu parlais d'apnée d'entraînement profonde, tu descends à combien et qu'est-ce que tu vises pour ton record?
Alors, moi, je vise les records nationaux. Je peux pas prétendre à battre des records du monde. J'ai pas le budget. J'ai pas la liberté de vie pour m'attaquer à 100%, pour 100%, pour 100% à des records de cette taille. Il faut vraiment un contexte pour faire une fenêtre de record. C'est pas facile, hein. Il faut mettre les conditions en place. Donc c'est les records nationaux. Maintenant lesquels j'aimerais bien battre mes records en immersion libre et en poids constant bipalme, les approfondir. Maintenant les chiffres, on verra quand on sera un petit peu plus près. J'avais scoré 88 mètres dans ces deux disciplines. Ça me semble complètement accessible de passer les 90 mètres. J'avais scoré 100 mètres en monopalme. On verra si la bestiole est en forme quand on arrivera dans les grandes profondeurs et voir si c'est jouable d'aller plus profond. Et il y a le 100 palmes aussi, mais là je prétends pas faire des records. J'ai assez peu d'entraînement et puis surtout j'ai un historique de blessures en 100 palmes qui est assez conséquent, donc il faut que je me méfie. Maintenant l'entraînement, il va rentrer pure profondeur quand je vais arriver vers 80 mètres. Toute la partie de préparation avant de plonger à 50, 60, 70, 75 mètres, tout ça, c'est relativement facile. Et quand je vais commencer à plonger à 80 mètres, alors à partir de ce moment-là, le mental, l'esprit, la motivation, puis la fatigue va rentrer en ligne de compte, parce que on retourne pas dans l'eau comme ça, hop, et puis je plonge à 80 mètres du premier jour, et puis c'est amusant, c'est quand même des défis sur le des défis physiques, des défis mentaux, et puis ça draine beaucoup beaucoup d'énergie, ça draine beaucoup de peur, ça draine beaucoup de phénomènes mentaux, donc il faut faire attention au surentraînement. Et donc il y a des formes, il y a des parties d'entraînement qui sont très passives. Hein, il y a des fois des athlètes qui viennent s'entraîner ici, ou quand j'étais responsable de la plateforme, il y avait des athlètes célèbres, et puis je demandais à leurs amis, je disais, mais qu'est-ce qu'il fait la journée? Alors comment il s'entraîne lui? Il dit, oh, il fait rien. Il fait rien. Je dis, comment ça, il fait rien? Oui, il regarde des documentaires animaliers, couché sous son lit, branle rien. Donc ça dépend vraiment du tout au tout, mais en apnée, c'est très important de savoir que moins, c'est plus. Ça veut dire quand on commence à vouloir en faire plus, ouh, faut faire attention parce que là, il y a une tension profonde qui fait qu'on est en train de se tromper de sport.
Ouais, et encore, tu vois, moins c'est plus. Enfin, faire attention et de pas en faire trop. Et pour autant, tu dis que tu plonges tous les jours à 80 mètres en entraînement, ce qui est énorme, parce qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on pensait que descendre au-delà de 50 mètres, c'était la mort assurée, parce que les poumons résisteraient pas à la pression et s'affaisseraient sur eux-mêmes.
Oui. Alors, bon, je plonge pas à cette profondeur tous les jours. Il y a quand même une séquence que je dois suivre. Par exemple, je vais faire deux jours à la suite, et puis un jour de congé, puis 2 jours à la suite, et puis 2 jours de congé. Maintenant, le centre d'entraînement où je vais, il faut poser ses créneaux d'entraînement 24 heures à l'avance ou les annuler 24 heures à l'avance. Ce qui est complètement impossible parce que quand on sort d'une plongée à plus de 80 mètres, on est complètement dans les choux. c'est difficile de prendre une décision claire. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et puis, ce que les gens disaient, que descendre en dessous de 50 mètres, ça pouvait être mortel. Bien entendu, ça l'est toujours, hein. Ça l'est toujours. Et il faut quand même réunir certaines conditions physiologiques et puis une connaissance du sujet qui permettent de s'entraîner pour pas se blesser quand on descend en dessous de ces profondeurs. Mais le risque, il est présent. Et puis, on peut pas faire ça tous les jours. Faut se reposer, faut respirer, faut faire du yoga, des étirements. Et puis, effectivement, faut trouver la bonne alimentation. C'est un sport de détail, comme tous les sports de compétition. Je pense que c'est un sport de détail.
Moi, je reviendrai de toute façon sur l'apnée après, mais puisque t'as parlé à plusieurs moments de conscience, de zazen, c'est peut-être le moment d'introduire le fait que t'es aussi moine zazen. Et moi, tu vois, l'image que j'avais d'un moine zazen, c'était quelqu'un de lisse, quelqu'un en harmonie, tu vois, d'aligné, sans vague. Et je t'ai écouté sur un podcast et en fait, j'ai découvert que ton parcours a été extrêmement tumultueux avec beaucoup de chaos et que t'avais été explorer des extrêmes vicieux comme le whisky ou d'autres plus vertueux comme la folie des profondeurs que dans lequel tu t'adonnes aujourd'hui. Et du coup, ça me fait me demander c'est quoi pour toi la sagesse en fait?
La sagesse, c'est le terrain sur lequel peut pousser la discipline. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. La plupart des gens cherchent la discipline, cherchent la sagesse, mais ils sont pas d'accord de faire l'effort de comprendre les compétences que ça prend. Okay. Devenir une personne sage, ça prend des compétences, ça prend un enseignement. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est le respect. Okay. Bon, d'abord un tout petit peu d'austérité. On trouvera jamais la sagesse sans austérité. Donc il faut un tout petit peu d'austérité, il faut s'entraîner. D'accord? Moi je suis un moine solide, hein. Je suis un moine solide, j'ai un entraînement monastique costaud, j'ai commencé la pratique du zazen et je dis pas la méditation les mains en chou-fleur. J'ai commencé le zazen peut-être à l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est une méditation très stricte avec un encadrement d'éducation très stricte. Donc ça, normalement, la pratique prolongée de zazen, ça fait pas ça fait pas des enfants de cœur. Okay? Ça fait pas des enfants de cœur. Bien entendu, le zen c'est le bouddhisme, mais il faut pas confondre avec les moines tibétains ou ces gens qui ont, disons, des avantages sociaux qui découlent de leur pratique monastique. Donc ouais, je suis un moine solide, effectivement. Donc la sagesse, ça fonctionne comme ça. Une fois qu'on a compris qu'il fallait s'adonner un tout petit peu à l'austérité, l'austérité pourquoi? Parce qu'il faut d'abord apprendre le respect. Alors, au début, c'est difficile de grandir spirituellement en se prenant comme exemple soi-même. Il vaut mieux suivre l'enseignement de quelqu'un. Moi, j'ai suivi l'enseignement de Maître Kosen. Donc, ça a été de multiples années d'inculquement du respect. Et comment on inculque le respect à un disciple? En lui faisant comprendre quelle est la bonne distance. D'accord? Non, non, non. Là, t'es trop près. Reviens. Là, t'es trop loin. Un petit peu comme dans les couples, hein, c'est pareil. Une fois que la distance respectueuse, elle est mise en place, on peut obtenir l'amour. Ok? Le maître aime bien le disciple ou alors le compagnon, les gens s'aiment. Il y a de l'amour. Quand on pratique l'amour, qu'est-ce qu'on obtient? Quand on pratique l'amour, on comprend que l'amour n'est qu'une question de distance respectueuse avec la personne. Quand on comprend que l'amour, c'est ça, alors on obtient la sagesse. OK? La sagesse, c'est savoir que l'amour ne dépend que de la distance respectueuse. Maintenant, quand on pratique la sagesse, pour toujours avoir ou l'amour, ou la distance respectueuse, ou la paix de la sagesse, ça s'appelle la discipline. Ça s'appelle la discipline. Et la discipline, c'est ça, c'est la libération. Donc la sagesse, c'est simplement pratiquer les choses qui vous plaisent, avoir la vie qui vous plaît, et dans le meilleur des cas, si vous êtes discipliné, vous arrivez même à faire en sorte que les gens autour de vous ils aient accès à ce truc-là plus facilement. C'est ça la sagesse, c'est le terrain sur lequel grandit la discipline.
Et tu dis que t'es un moine solide. Moi, tu vois, j'ai l'image de. Tu vois l'application Petit Bambou? L'application de méditation, Petit Bambou, non, ça te parle pas?
Non.
Bon, bref, c'est une application de méditation qui doit être l'une des plus populaires en France. Et, okay. Et l'image, leur logo, c'est justement un petit moine tout frêle, justement tout fin, tu vois, qui ressemble à un petit bambou, justement. Et, et tu vois, t'as cette idée d'harmonie, de détente, d'apaisement. Et toi, ce que tu partages est complètement différent. On a l'impression que ta pratique de zazen, c'est au contraire de l'inconfort, c'est de la difficulté, c'est la maîtrise de soi, justement. C'est, oui. C'est... En fait, tu vois, on pourrait même, je vois même quand tu me racontais avec ce fonctionnement maître-disciple, peut-être un parallèle avec l'armée.
Ouais, j'ai un ami en Suisse qui est enseignant de méditation. Ok, alors il a 30 ans, il aime bien dire fort de mes 30 ans de pratique de la méditation. Ok, moi j'aime bien compter les heures. Ok, moi j'ai 25 000 heures de vol assis sur un coussin, 25 000 heures de vol. Ok. Et lui, il aime bien dire qu'on fait des fois des ateliers ensemble. Il aime bien dire que moi, je suis un spetsnaz de la méditation, une espèce de béret vert. Ok. Bien entendu, les gens voient l'aspect médiatique hein, des moines, les moines tibétains, c'est très à la mode. Ils sont colorés, ils sont exotiques. Mais la plupart des gens oublient derrière la quantité de pratique qu'il y a. Maintenant, je le soulignais juste avant, la plupart de ces moines-là, ils ont des avantages sociaux qui viennent de leur fonction. Donc, c'est des gens qui sont devenus moines et qui sont des moines, disons, professionnels, dans le sens où ils ont des avantages sociaux qui vont avec. Des fois, je suis assez critique hein, des moines templiers, les moines confortables qui font pas la vaisselle, c'est pas eux qui font le jardinage dans le temple, c'est des jardiniers. Ils ont pas d'enfants, ils sont pas mariés, donc ils ont pas de problème de couple. Et puis, comme ils sont nourris, logés, blanchis, moi j'ai vécu comme ça. Hein. J'ai vécu comme ça pendant 9 ans comme un responsable de temple. Et j'ai vu la différence entre la pratique monastique pure où on se dédie que à la méditation et puis à la contemplation et tout et puis celle où il faut donner de soi, où il faut faire revivre sa vitalité. Donc bien entendu, je suis pas un moine des plus classiques, mais j'aime bien dire c'est pas à moi de devoir m'excuser si toute cette bande de moines sont des gens qui sont baignés dans le confort de la religion et puis que ils sont et alors on leur dit vous, alors je vais être tiens je vais te raconter une blague c'est un journaliste un podcasteur comme ça qui interviewe le Dalai Lama ou un autre hein. Et qu'on lui dit alors Monsieur le Dalai Lama, comment vous réagissez quand on vous bouscule dans le bus ? Ah oh non, je réagis pas, je reste calme. Non mais vous comprenez pas, la personne elle vous bouscule intentionnellement. Ah mais je ne réagis pas pour autant. Le journaliste s'emporte un petit peu. Non mais attendez, il vous bouscule, il vous pousse, il vous traite de singe. Ah je ne réagis pas, je reste calme. Mais il vous crache dessus, il vous insulte. Ah mais non, je réagis pas. Ah mais comment vous faites ? Ben c'est bien simple. Je prends pas le bus. Voilà. Ok. Alors elle est devenue populaire cette blague. Je me rappelle que je la racontais déjà au début de mon apprentissage de la méditation. Moi, quand j'ai commencé à apprendre la méditation, j'étais un adolescent tourmenté. Il me fallait un contexte de pratique qui était sérieux, où la méditation c'était sérieux, et moi l'image que j'avais des moines, quand j'ai commencé la pratique de la méditation, c'était les moines Shaolin, c'était les moines costauds, c'était Bodhidharma, c'était des patriarches, c'était des pionniers. Il y avait Moïse aussi que j'aimais bien dans la lignée des patriarches. Toutes les personnes qui m'ont inspiré au niveau spirituel étaient des personnes costauds. Des personnes costauds. J'ai jamais véritablement été attiré par le style, par le style de l'agneau. D'accord? Maintenant, regarde, quand je suis né, je mesurais presque 60 centimètres. Donc j'étais pas fait pour être un petit personnage discret, ça c'est sûr, et ça déteint sur la force que j'ai de m'exprimer, mais aussi la force que j'ai de pratiquer.
Et qu'est-ce que tu as découvert de ta conscience après 25 000 heures passées en zazen?
La conscience, c'est un poison. La conscience est un poison, on est tous inconsciemment, naturellement et automatiquement heureux, en bonne santé, et on fait les actes justes. Et la conscience est un visiteur qui pense qu'il a la maîtrise complète du véhicule, c'est dommage. C'est dans la pratique bouddhiste traditionnelle, la conscience, c'est un poison. C'est quelque chose, c'est la conscience doit se refondre dans l'inconscient. La pratique de la méditation, c'est de trouver le juste milieu, de trouver la justesse de manière directe et inconsciente. La conscience nous en empêche. La conscience nous, ouais. C'est la conscience qui perd la maîtrise du véhicule et qui fait des conneries. C'est pas inconsciemment, naturellement, automatiquement, on est tous parfaits. On est tous parfaits et on a tous la preuve qu'on est tous capables de donner le meilleur de nous-mêmes à l'instant T, qui est parfois même pas celui qu'on a choisi. Donc la conscience, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, c'est limite, c'est quelque chose qui doit s'entraîner, c'est presque un muscle. C'est presque un muscle. Je le dis un petit peu malheureusement parce que la plupart des gens sont là aujourd'hui, ils sont complètement aveuglés par l'envie de développer leur conscience, de trouver plus de lumière et ils prennent des choix qui sont de plus en plus tournés vers le soi et l'ego. C'est dommage. C'est dommage. La conscience, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. C'est quelque chose qui doit être connu. C'est quelque chose qui doit être analysé. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé. C'est quelque chose dont la méditation zen, c'est aussi l'art d'aller au-delà de sa conscience et de se rendre compte que c'est là où tout commence. C'est au-delà de la conscience que la véritable maîtrise existe.
Ok, donc pour toi, la conscience, c'est l'ego en réalité, et on
Non, pas
s'identifie
tout à
beaucoup.
fait. Non, non, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble.
Et donc, selon toi, ce qu'on devrait, ce qui mènerait vers une vie plus heureuse et plus juste, tu vois, on revient à cette notion de justesse, de juste place, de distance avec les autres et avec soi-même, qui permet justement une certaine fluidité et la sagesse dont tu parlais plus tôt. Ça serait du domaine de l'intuition. Tu vois, si tu dis que la conscience, c'est le poison, et puis que l'ego est son vassal, quelle voie serait la plus juste en réalité?
Je pense que la pratique de Zazen, elle est très efficace pour révéler toutes les données de l'équation. Je pense que le fait de s'asseoir dans une posture stricte et de ne pas bouger, de se dédier, disons, à l'immobilité pendant un moment, au mouvement intérieur, de véritablement pratiquer une méditation sans objet, c'est le meilleur moyen de voir les limites du sujet. Donc je pense que c'est ça. Maintenant l'intuition, on suit tous notre intuition. À un moment donné, on va essayer des trucs, machin. Moi j'ai j'ai pas suivi beaucoup mon intuition, hein, quand j'ai cherché des réponses sur la vie, sur l'existence, sur la conscience. J'ai pris quelques chemins de traverse et puis très vite la méditation zen s'est imposée comme le moyen le plus sûr de s'étudier soi-même, le moyen le plus sûr, le plus safe.
Et pour autant, tu vois, je pense que si tu dis à quelqu'un, voilà, tu vas rester 2-3 heures par jour assis dans la même position sans rien faire, justement, et c'est ça l'exercice, il va peut-être au début réussir à se discipliner pour le faire, pour l'expérience, tu vois, pendant une semaine ou deux, il n'y a pas continué pendant 10 ans. Et donc,
ouais, mais c'est parce qu'il n'obtient justement pas la discipline. C'est justement pas, il n'obtient pas la discipline. Il obtient il goûte l'austérité de la pratique. Et il développe pas la distance respectueuse. Il développe pas l'effort. Justement parce qu'il veut de la discipline, de la discipline, de la discipline, de la discipline. La discipline, c'est après qu'on ait obtenu la sagesse. Ça vient tout à la fin, la discipline. Il faut avoir 20, 25 ans de pratique pour prétendre avoir une discipline. Ça sert à rien de dire qu'on va avoir une discipline au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. La discipline, elle vient quand la pratique devient éternelle. Ok? Quand on sait que de toute façon, on fera ça toute sa vie. Et qu'on sera ça toute sa vie, à ce moment-là, la discipline, elle apparaît. Mais la discipline, c'est pas la répétition des herbes amères. Ça, c'est l'apprentissage de l'austérité et de l'effort.
Et qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, t'a permis de rester motivé pour continuer pendant 10, 20, 25 ans et que ça devienne, et trouver justement la discipline? Parce qu'il faut bien une motivation intrinsèque ou extrinsèque pour te garder engagé dans une pratique qui est aussi exigeante.
Oui, ben, il y a plein de choses qui aident. Déjà le karma, ça aide. Si on a une famille autour de soi, un entourage social qui répond de manière positive à un engagement, ça aide beaucoup parce que si le jour où par exemple, tu te rases le crâne et tu dis, ah, je vais devenir moine et que tout le monde te dit, t'es complètement cinglé, mec, et peut-être c'est trop dur. Si ta mère, elle te voit en disant, oh, t'es horrible, peut-être c'est difficile aussi. Donc moi, j'ai un bon karma, j'ai un entourage familial qui est déjà versé dans la spiritualité depuis longtemps. Et puis ensuite, quand on veut apprendre quelque chose, le chemin le plus simple, c'est quand même de trouver un prof. Moi, j'ai eu un très bon prof qui m'a maintenu en joue, mais qui m'a aussi maintenu en amour, de manière à ce qu'il y ait, disons, tous les éléments nécessaires à vouloir poursuivre la relation de maître à disciple. C'est comme dans un couple, hein, quand tu rencontres une fille ou un garçon, puis qu'il te plaît, puis qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la distance respectueuse, à ce moment-là, on peut faire durer la relation et puis pratiquer aussi bien le respect, que la distance, que l'amour, que la sagesse, que la discipline ensemble. Et puis à ce moment-là, 25 ans, ça passe comme ça. Hein. Ouais, ça passe comme ça.
Mais c'est parce que tu étais aussi mu par ce rêve de devenir moine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir moine? Parce que déjà, tu avais une image précise de ce que ça voulait dire, être moine?
Au début, ouais, parce que t'as dit
que maintenant, ça se professionnalisait, que c'était un métier, mais en réalité,
moi,
je sais même pas ce que c'est.
Je suis un moine professionnel, mais la différence, c'est que mon patron, c'est pas la religion. On peut être un moine professionnel dont le patron c'est la religion. Ok, à ce moment-là on est payé ou on reçoit des avantages sociaux qui viennent de la religion. Moi j'en ai pas. Ok, je suis un moine dont le patron est spirituel. On dirait. Ok. Good. Moi j'ai pas voulu devenir moine. Au début je voulais devenir astronaute. Ok. Je suis né aux États-Unis, donc aux États-Unis, tous les enfants, ils veulent devenir astronautes. Alors, ça n'a pas été possible, parce que mon père m'a fait comprendre que déjà, un, je serais trop grand pour aller dans les capsules, ce qui s'avère vrai. Il paraît qu'on peut rentrer dans les capsules que jusqu'à 1m90, et je mesure 1m98. Ok, donc ça, je pouvais pas. Et puis que j'ai pas une bonne vue, et que surtout, pour devenir astronaute, il faut suivre le filum militaire, en fait. C'est le meilleur moyen. Et moi, c'était hors de question que je devienne un militaire. Donc, comme j'ai compris que je pouvais pas devenir astronaute, je voulais devenir chaman. Ok. Je voulais devenir un magicien, chaman. Je voulais aider les gens, devenir un thérapeute, de manière un petit peu tribale. Et puis, j'ai fait les études dans ce sens-là, Mais c'était un petit peu perturbant de ramener ces connaissances dans le monde occidental. Alors assez vite, en fait, j'ai fait une crise mystique et je suis devenu moine. J'ai demandé l'ordination. J'ai jamais véritablement voulu devenir moine. J'ai compris à un moment donné, dans la pratique, au milieu de ces gens-là, au milieu des moines, au milieu des nonnes, au milieu, disons, de ma famille spirituelle et puis une partie de ma famille proche aussi, que si je devenais pas moine, je serais pas un exemple entier. Je serais pas comme eux, je pourrais pas les aider. Tu vois, disons, ma participation serait pas entière. Donc, j'ai pris la forme d'un moine. J'ai pris la forme d'un moine. Mais je suis resté moi-même. Ok.
Et ça ressemble à quoi, la journée dans l'habit d'un moine?
Oh, bah.
Beaucoup de zazen.
Oui, alors bah il y a tout le alors si on a de la chance de rentrer en discipline, c'est-à-dire moi j'ai quand même eu la chance d'être pris comme disciple par mon maître, c'est ce que je voulais. Au jour d'aujourd'hui, les gens pratiquent la méditation comme un hobby ou l'ordination de moine, c'est un truc qu'ils prennent presque comme un hobby. OK. Ils sont contents de faire ça pendant l'été, ils vont dans un temple, les temples sont devenus accessibles, on a accès à ces ordinations, on peut recevoir l'ordination, puis il y a des gens, ils pratiquent le samedi, le dimanche, la semaine ils travaillent, donc ils peuvent pratiquer le week-end, et puis quand ils ont des vacances, ils vont un petit peu dans le temple. Ok. Ça peut ressembler à exactement tout ce que tu veux. Maintenant, il y a une cérémonie traditionnelle, dans laquelle, généralement, le moine ou la nonne, on lui rase le crâne. Maintenant, c'est plus obligatoire. Mais ça peut ressembler à tout, ça peut même ressembler à des trucs très farfelus. Hein. Si je vois aux États-Unis certaines lignées zen, il y a des trucs très très farfelus. Hein. Et ensuite, la journée d'un moine, c'est que tout le monde a des a priori sur ce que devrait être un moine. Donc, partout où tu vas aller en tant que moine, tu vas avoir un reflet, bon, aussi bien en toi-même, mais surtout tous les phénomènes de la vie, tu vas avoir un reflet, le reflet du moine. Maintenant, c'est très pratique dans l'évolution spirituelle de devenir moine. C'est très, très pratique parce que on peut tout d'un coup parler de soi à la troisième personne. On peut dire, ce moine, le moine. Il y a une dépersonnalisation avec l'ordination de moine qui est très pratique qui est très utile dans la pratique spirituelle. Donc un petit peu, tu me diras, un petit peu comme dans l'armée, hein, le bonhomme qu'on habille en vert, à qui on donne un fusil et tout, et puis qu'on conditionne tous les jours à pratiquer, il deviendra une bête de guerre, ouais. Le moine, en lui mettant l'habit noir, en lui rasant la tête, en lui donnant des tâches quotidiennes, en le privant un petit peu de repos et tout ça, il devient de plus en plus docile, il s'abîme de plus en plus dans la méditation et il découvre ce qu'il doit y découvrir. Maintenant, mon maître disait des gens magiques qui apparaissent et qui disparaissent dans le bouddhisme, c'est assez rare. Maintenant, des moines qui pratiquent toute leur vie, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Ça n'engage pas à grand-chose de devenir moine. Ça dépend que de toi. Moi, j'ai été le disciple proche de mon maître pendant 15 ans. C'est mon père spirituel. C'est quelqu'un qui m'a recueilli dans ma crise mystique de fin d'adolescence et qui s'est substitué à mes parents pour me redonner une éducation. Je lui dois énormément. Il m'a certifié comme maître zen, il m'a fait rentrer dans la lignée des patriarches. Moi, je suis un moine qui a été forgé, trempé, retrempé, et malgré toutes les activités ubuesques que je fais aujourd'hui, je n'en reste pas moins ce même moine qui pratique avec autant d'assiduité et d'intérêt que dans les premiers jours. Peut-être maintenant ma discipline a changé. J'ai plus 1000 heures de pratique du zazen annuel. Je pratique peut-être une heure par jour, pas tous les jours, des jours 20 minutes, des jours 7 minutes seulement. Je vis loin de la communauté, je vis dans le désert à Sharm el-Cheikh et je pratique la plongée. Donc c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on s'attend d'un moine. C'est là où est le gros de mon boulot, c'est de faire en sorte que les gens évoluent, ouvrent leur esprit et arrêtent de penser qu'un moine, c'est un tiroir d'un meuble Ikea dans lequel on peut mettre un truc défini. Moine, c'est regarde une petite anecdote et puis je vais me la fermer pour un moment. J'étais au Spirit Festival de Ibiza une fois. J'avais tanné l'organisateur du Spirit Festival en lui disant au milieu de tous les gens farfelus de votre île, la seule personne authentique, moine, c'est moi. Il faut que vous m'invitiez. Il m'invite. Et puis, en dehors des heures de méditation que je faisais, je me baladais avec mon chapeau, avec ma robe. Et il y a une personne qui m'arrête et qui me dit, vous êtes quoi? Un petit peu comme si on était dans un truc de cosplay, quoi. Vous êtes quoi? Mais dans un truc de cosplay, on m'aurait au moins demandé qui j'étais. On m'aurait demandé qui j'étais. Mais là, on m'a demandé ce que j'étais. Et c'est ça qui est très agréable dans le fait de devenir moine, c'est qu'on devient quelque chose. On devient quelque chose. Et c'est beaucoup plus facile d'abandonner le soi quand on a l'impression que c'est quelque chose plutôt que qu'on s'y identifie. Okay? Il y a plein de gens qui deviennent moines et qui sont accrochés comme des bernicles au fait d'être des moines, hein. Moi, c'est pas directement mon cas, mais je le suis.
Et si on dit que la finalité de Zazen, etc., c'est justement de trouver le zen, cette juste posture, donc tu n'es peut-être pas d'accord avec ça, mais bon, tu auras l'occasion de rebondir. Quelque part, moi, extérieurement, j'ai l'impression que eh ben, là où tu pratiquais le plus Zazen, en réalité, c'était peut-être là où tu étais le moins zen, parce que ben, je t'ai raconté sur un autre podcast que tu testais tous les whiskies, etc., que tu étais devenu un peu alcoolique, et puis peut-être très, très, très... très refermé sur toi-même d'une certaine façon. Et aujourd'hui, à l'inverse, tu me sembles avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Tu vois, dans ma logique zen, il y a une logique d'équilibre, d'harmonie. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, tu fais que parfois 7 minutes, 20 minutes ou 1 heure de zazen, mais tu partages ta sagesse justement avec d'autres personnes. Tu as une vie et une vitalité qui est préservée et qui permet la pleine expression de ton potentiel. Donc du coup, finalement, entre ces deux extrêmes, c'est quoi le zen?
Ah. Alors, personne ne sait.
C'est pour ça qu'on fait des zen.
Personne ne sait. Et là où les moines zen ont été bien cons, c'est qu'on a omis de copyrighter le mot. On a omis de copyrighter le mot parce que nous, on sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Le zen, le vrai zen. OK? Maintenant, si je peux pas le copyrighter en me disant c'est ça. Okay. Donc, le zen, c'est ton compte en banque. Le zen, c'est ton compte en banque qui fonctionne bien. Hein. C'est ton abonnement de téléphone mobile qui merde jamais. C'est ton assurance santé qui rembourse tous les frais. Non, non, tu vois, le zen, un, c'est un mot. Quand quelqu'un te dit, c'est quoi le zen, c'est un mot qu'on utilise pour décrire quelque chose. D'accord. Il vient d'où ce mot zen? Il vient du chinois, chan. Chan. OK? D'où vient le mot chan? Et qu'est-ce que ça veut dire, chan? Pareil, personne ne sait. Personne ne sait. Chan, ça vient d'où? Ça vient du chinois, chana. Chana. OK? Qui vient d'où et qui veut dire quoi? Ben, ce qui veut dire, on sait toujours pas. Et ça vient d'où? Ben, en fait, ça vient du pali, dhyana. Okay? Quand on a demandé au Bouddha, qu'est-ce que tu pratiques? Okay? Le Bouddha, attention, hein, attention, parce que je vais écorner de la peinture, là. Le Bouddha, pareil, hein, il faut voir que c'était un personnage historique, qui était riche, qui était prince. Il avait une promo et une possibilité de marketing qui n'était pas celui de l'ermite de la forêt. Okay? Donc, quand le Bouddha a vécu cette expérience mystique qui l'a révélée, les gens avaient beaucoup, beaucoup de questions. Okay? Et quand on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pratiquait, qu'est-ce que tu pratiques, il a répondu, je pratique Dhyana. Dhyana, c'est absorption, méditation, contemplation. Okay? On ne sait pas trop parce que c'est vieux comme mot, ça a 2500 ans. Et puis, disons que les premières données qu'on a reçues de la pratique du bouddhisme, de la pratique du Bouddha, c'était des missionnaires éventuellement chrétiens. Donc, Dhyana est devenu Chana, et Chana est devenu Chan, et Chan est devenu Zen. D'accord? Donc, le Zen, c'est simple, c'est la pratique telle que le Bouddha l'a pratiquée, avec l'évolution autour, avec l'évolution du monde social. La pratique est pas exactement la même, la posture a évolué. Donc, le zen, c'est cette même pratique-là, c'est le bouddhisme. Mais maintenant, on nous conseille, nous les moines, de dire, quand on nous demande c'est quoi le zen, de répondre, le zen, c'est zazen. D'accord? Si tu veux savoir ce que c'est le zen, tu pratiques zazen. Et tu comprendras. Maintenant, moi qui ai passé 25 000 heures, je vais te dire que tu comprendras pas. Donc personne sait ce que c'est. Personne sait ce que c'est. Éventuellement, maître Deshimaru, qui était costaud et qui avait pas peur, il disait, le zen, c'est moi. Voilà. Un petit peu comme Rambo, on lui disait, de la guerre, c'est moi. Voilà. Rambo, la guerre, c'est moi. Le zen, c'est quoi? Le zen, c'est moi. On dirait Deshima. Maintenant, Étienne Zeisler, Mokucho Zeisler, à la télé, là, France 2, Maître Zeisler, qu'est-ce que c'est le zen? Aucune idée. C'est la pratique de zazen. Et ce qui en ressort. Donc, aujourd'hui, les gens vont me dire, est-ce que ce que tu pratiques, Loïc, c'est le zen? Je sais pas, il y a plein de gens qui vont te dire que le zen, c'est plutôt, tu vois, les bonsaïs, les ikebana, la cérémonie du thé, le matcha, hein, le silence, la pluie, les petits pocs sur les bambous, quoi. Je sais pas ce que c'est le zen.
Ouais. En fait, moi, je voyais le zen même pas comme une pratique, mais plutôt comme un état d'être, comme une posture cognitive. En réalité, c'est pas le cas.
Non, non.
C'est par la. En fait, on a fait peut-être un raccourci en se disant que par cette pratique-là, on cherche cette forme d'équilibre. Et donc aujourd'hui, dans le monde occidental, on considère le zen comme étant cet état d'équanimité.
Le zen, David, c'est comme l'apnée. Le zen, David, c'est exactement comme l'apnée. Il y a plein de gens qui s'y noient. Okay. Il y a plein de gens qui s'y noient. Moi. Je me suis pas noyé dans le zen, je me suis pas noyé dans l'apnée. Mais des gens en train de suffoquer sous la surface du zen, j'en connais des tonnes. J'en connais des tonnes. Donc ce zen-là, ok, qui est la même étiquette que le zen de ton compte en banque, de ton abonnement de téléphone mobile, c'est une étiquette que les gens ont voulu mettre sur la spiritualité. C'est un leurre. Et le boulot des maîtres zen comme moi, c'est de le faire sauter en éclats, ce leurre. Alors, comment on le fait? Ben, tu m'as pas attendu pour savoir que les moines zen, ils se tapent dessus avec des bâtons. Ça te remet dans les bottes. Mais de penser que le zen, c'est juste ça, c'est très chouette. Je l'ai pratiqué, j'adore ça, c'est génial. J'adore le petit jeu du truc templier. Mais le zen, c'est la vie. Le zen, c'est la vie. Ok, et pratiquer zazen, c'est pratiquer l'essence de la vie. C'est pas essayer de fondre son truc, de rentrer dans le tiroir Ikea où c'est marqué moine zen. Hop, je me mets dedans, je ferme le tiroir et la vie c'est fini. C'est pour ça que je te dis le zen c'est zazen. Quand on a pratiqué, il y a des gens c'est 15 minutes, hein. Ils s'asseyent 15 minutes en zazen, ils disent qu'est-ce que c'est que cette connerie. Et ils se barrent. Ben, ils ont compris. Il y en a d'autres, il leur faudra 25 000 heures pour se dire, Oh putain, j'en peux plus de cette pratique quotidienne, de se rendre compte qu'ils ont le trésor de leur vie. De pouvoir s'asseoir en zazen, c'est un trésor, c'est un trésor inestimable. Mais ça ne doit pas conditionner toute notre existence. Le zen, c'est pas un truc qui a été inventé pour conditionner l'existence des gens dans un carcan religieux. Et moi, je te le dis, je suis moine et je suis le tributaire de cette tradition. Je ne vais pas laisser tout le social qui est engorgé dans un conditionnement de profit personnel permanent me dire qu'est-ce que c'est le vrai zen. Le vrai zen, c'est la vie et ça veut dire beaucoup, beaucoup d'heures de pratique du zazen. Et la voie du milieu, elle n'est, la voie du milieu telle que l'a enseigné le Bouddha, elle n'est accessible que par l'accointance avec les extrêmes. Bien sûr qu'on croit que le zen, c'est ce truc où tout le monde est calme et tout ça. Et on pense, il y a des gens qui... Bon, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Il y a aussi des gens qui ouais, tu vois, il y a des célébrités de la spiritualité qui dernièrement ont eu des comportements qui ont coupé en deux la vision qu'on a du comportement d'un moine ou d'un guide spirituel. Moi, je pense pas qu'il faut tenter de ressembler à un schéma fini pour pratiquer le zen. Il faut pratiquer la méditation zen sérieusement. Et au bout d'un moment, ça marche inconsciemment, naturellement, automatiquement. Et c'est là que ça fait son vrai boulot. C'est pas un truc pour se développer la conscience. C'est pas un truc pour s'enfermer l'esprit dans un joli temple zen avec de l'encens à 10 balles les bâtons. C'est une vraie pratique de soi là, et qui se retrouve quand on la pratique avec sincérité, quand on a obtenu la discipline, on va retrouver cette pratique dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de la vie. Ok. Maintenant, au bout de 25 000 heures de méditation, pour moi, la méditation, c'est devenu ce temple, ce havre de paix. Quand je m'assieds dedans, c'est le dharma de paix. Mais c'est plus une tentative de faire grandir ma conscience ou de trouver la paix intérieure ou de devenir quelqu'un de meilleur. Je le suis devenu inconsciemment, naturellement, automatiquement la personne que je devais devenir. Et si je me pense moins bien qu'avant, c'est que mon jugement personnel, ça se dépasse. Donc c'est important. Bon, tu vois, mon travail de moine, c'est de faire en sorte, et mon travail d'apnéiste, et si j'ai mené ce moine dans le milieu de la compétition extrême et de la profondeur, qui est une allégorie du truc, c'est aussi pour faire voler en éclats cette peinture de sainteté que les gens continuent de mettre sur les religieux, les méditants, les yogis et tout ça. Les moines sont pas différents des autres. Et ça peut être des gens costauds, bien trempés, avec la langue pas dans leur poche, qui ça donne à la compétition pour aider à l'évolution globale. Ouais, c'est ce que je crois en fait.
Et justement, on refait le parallèle avec l'apnée, mais donc t'as précisé tout à l'heure que l'apnée c'était pas du relâchement, que au contraire c'était plutôt de la guerre, de la souffrance, de difficulté. Malgré tout, j'imagine que ces 25 000 heures de zazen t'ont aidé à maîtriser tes états internes, tes états émotionnels, donc ta conscience, même si on n'est pas tout à fait sûr de ce que ça veut dire, pour être capable d'atteindre ces profondeurs-là. Quel parallèle tu vois entre les deux?
Ouais, bien sûr, j'ai une dose d'entraînement assez grand. D'accord, je pense que si on veut devenir maître zen, c'est comme quand on devient professeur d'université, il y a quand même de nombreuses heures de pratique qui n'étaient pas agréables derrière. Je pense pas qu'on devienne véritablement bon à quelque chose si on n'apprend pas à faire ses armes, ok? Si on veut devenir bon au sprint, ben, ça veut dire des tas et des tas de 100 mètres qu'on va courir en, peut-être en 20 secondes au début. Donc, il faut apprendre un petit peu l'austérité. À partir du moment où la conscience se sent bien dans l'austérité, c'est comme les enfants, hein. Les enfants, si on leur file que des bonbons, ils vont manger que des bonbons. Le jour où on leur donne des endives cuites, des endives braisées, là, et que c'est un petit peu amer et tout, ils vont pas manger ça. Mais quand ils vont comprendre les bénéfices, puis qu'à la fin, c'est pas aussi catastrophique que ça. On a dépassé un petit peu la gênerie des débuts. Au début, on gêne, hein. Ah non, une heure et demie de méditation, ah là là, ça fait mal aux genoux. Oui, ça fait mal aux genoux. Oui, ça fait mal aux genoux. Ok. Maintenant, moi, je suis pas une personne qui est passée par des détours dans la méthode, donc j'ai pas commencé par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, et puis 30 minutes, comme on le préconise aujourd'hui. J'ai commencé direct, donc je suis peut-être un petit peu spécial dans le fait que j'ai eu un entraînement assez dur, ce qui m'a permis de faire aussi, d'être successful dans l'apnée aussi. Mais sans ça, en fait, sans cet entraînement, on va être coupé de la possibilité de véritablement profiter des bienfaits. S'il n'y a pas eu des moments durs, dans l'apprentissage de la méditation, dans l'apprentissage de l'apnée, on va toujours se retrouver indifférent, en fait. On va toujours se trouver indifférent. Et moi qui ai eu des moments durs dans la méditation, maintenant, si je m'assieds en zazen, c'est instantanément, bon, au bout de 20 minutes, je suis comme tout le monde, hein, j'ai un peu mal au genou, mais ça passe. Mais je peux me rendre compte de la liberté, du bonheur que ça me procure. Parce que j'ai réussi à aller au-delà de mon jugement personnel pendant l'entraînement. C'est simple à dire, hein, mais une fois j'étais en conférence à Amsterdam et puis les gens me disent oui, mais c'est facile à dire pour vous, vous êtes maître zen. Et je dis mais bah oui, mais enfin c'est facile de devenir maître zen. Regardez, moi, ça a été facile pour moi. J'ai reçu l'ordination de moine à 19 ans. J'ai suivi mon maître pendant 20 ans. Et puis, à 37 ans, il m'a certifié maître. Et puis, voilà. C'est facile. Et je le dis avec toute ma sincérité. Je regarde le public. Je me dis, mais j'ai dit une connerie ou quoi? Et je cherche dans les yeux la réponse à mon interrogation. Ah, voilà! Ah oui, voilà, 20 ans. Vous n'avez pas 20 ans. Vous n'avez pas 20 ans pour ce que vous voulez véritablement devenir dans votre vie. Alors moi, je voulais devenir astronaute. J'ai pas pu devenir astronaute. Je voulais devenir chaman. J'ai pas réussi à devenir chaman. Bon, alors je suis devenu moine. J'ai toujours pas réussi à devenir ce que je voulais vraiment. Alors je suis devenu apnéiste. Bon, ben maintenant il y a un peu de tout. Je suis astronaute, chaman, moine, apnéiste. Et ça, c'est le boulot d'une vie. C'est tout le monde doit passer par là. La méditation, c'est le boulot d'une vie. C'est pas une pilule qu'on prend le samedi et qui va nous calmer. Je le dis à mes étudiants, hein. Je pense pas qu'il y ait aucun maître zen qui ait dit que la méditation c'était bon pour se calmer, hein. Ça c'est le Psychologie Magazine, des gens qui ont besoin de gens malades pour faire marcher leur business de méditation. Ils ont besoin, ouais, de vendre ça comme un médicament, mais c'est complètement optionnel. On peut vivre une vie magnifique sans avoir à méditer.
Donc la méditation, ça serait plutôt un exercice pour discipliner son esprit ou même pour se confronter à l'inconfort, de la même façon que la régularité dans l'entraînement sportif, l'exposition au froid, comme il est bien à la mode en ce moment, ou ce genre de choses. En fait, le fait de rajouter des doses et de rechercher l'inconfort dans notre quotidien nous permet potentiellement, de par biais de contraste déjà, de savourer le bonheur d'une douche chaude ou d'un moment de détente d'une part, et puis d'autre part de rendre aussi un petit peu tout plus facile parce que on a appris à discipliner cette propension qu'on a à chercher toujours la facilité, le confort et le raccourci.
Ouais. Ouais. Regarde par exemple au Japon, Zazen, c'est une punition. Hein. On est dans un dojo d'arts martiaux. Le bonhomme, il est indiscipliné. Le maître, il dit Zazen et il va s'asseoir face au mur. Ok, il va s'asseoir face au mur 10 minutes. À l'école, c'est pareil. On met pas les gens dans le coin avec un bonnet d'âne. 5 minutes, Zazen. Donc, dans certains endroits, la méditation, elle est vendue comme un attirail de discipline. Et puis c'est vrai que chez nous, elle est vendue comme un cosmétique bien-être de temps en temps. Effectivement, c'est vrai que aujourd'hui, vendre la méditation en amenant de l'austérité, en disant, vous savez, la méditation avec moi, ça va être dur, hein. Ça attire pas beaucoup de clients. Hein. Ça attire pas beaucoup de clients. Et puis ça attire des clients douteux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut être doux. Il faut être, si possible, un petit peu non-genré. Il faut pas prendre de parti. Il faut être ni conservateur. Faut vouloir la décroissance, mais le progrès. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, il est hyper paradoxal. C'est d'ailleurs pour ça que la pratique de Zazen est toujours d'actualité. Elle a toujours été d'actualité, puisque ça fait partie des grands mérites de la pratique de Zazen, c'est la capacité à ne plus sombrer dans les paradoxes. C'est la capacité à ne plus sombrer dans les paradoxes. Ça, c'est intéressant comme pratique. Ça, c'est intéressant comme argument de vente. Pour la méditation aujourd'hui, pour le bien-être, la méditation pour le bien-être, est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui vendent la méditation pour le bien-être? Je te pose la question parce que moi je suis pas au courant.
Bah écoute, moi en tout cas j'y verrais un avantage, même si probablement que la plupart des applications sont un peu dévoyées par rapport à l'essence initiale. Mais j'ai l'impression que nos quotidiens sont tellement surchargés, sursollicités. Enfin, et moi tu vois, je suis quelqu'un d'hyper curieux et de passionné par la vie, et du coup j'ai tendance à optimiser chaque minute de mon temps et à y mettre de l'intensité parce que c'est comme ça que je vis et que j'aime vivre. Mais parfois je regarde tout ça et je me dis ok, quand est-ce que je passe vraiment du temps seul avec moi-même? Quand est-ce que je coupe toutes ces sollicitations? Quand est-ce que je vide? Tu vois, on peut parler de jeûne, mais aujourd'hui même le jeûne, en réalité tu fais des marches, tu fais des massages, tu fais des saunas, etc. T'es pas vraiment en train de vider, tu vois. Et si tu me dis, tu vois, moi, la chose qui me fait le plus peur, c'est pas d'aller faire l'ascension du Mont Blanc ou d'aller faire un ultra trail, je sais pas où, ou traverser la Manche à la nage, ou réaliser un nouveau projet entrepreneurial ou apprendre une nouvelle compétence que je connais absolument pas. Si tu veux vraiment me faire peur, tu me dis, passe 24 heures sans rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et parce que ça me fait peur, je pense que je devrais le faire. Mais du coup, je pense que voilà, ce que tu partages sur le zazen, sur la méditation, etc., non pas comme un exercice pour se détendre, pour trouver l'harmonie, pour observer ses pensées, etc., mais plus pour apprendre à passer du temps avec soi-même et supprimer un petit peu toutes ces sollicitations, cette recherche sans cesse de l'objet brillant qui nous fait papillonner dans tous les sens. Là, je pense qu'il y a un intérêt.
C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique dans le zazen. Le zazen, c'est un espace. Quand les gens disent je voudrais faire le vide. Non 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 non. On crée de l'espace. OK. On crée de l'espace. Toute ta curiosité, toute ton envie, tout ça, c'est finalement dans la méditation, ça n'est plus que ton impulsion naturelle. Tu vas voir toute ta curiosité s'épanouir et puis tout d'un coup ce souhait de retrouver le calme. Tout ça, c'est ça qu'on vit dans la méditation. C'est un moment d'intimité avec soi-même. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dises, alors, si j'aurais peur qu'on me dise, fais 24 heures à rien faire. Parce que la méditation, c'est justement ne rien faire. À partir du moment où tu fais quelque chose en méditation, bah, tu fais quelque chose, t'es plus en train de méditer. Ok, t'es plus en train de méditer. Rappelle-toi que personne sait ce que c'est le zen. Personne sait ce que c'est le zen. Le zazen, c'est juste le zen assis. Ok, c'est la méditation. Mais la méditation, c'est ne rien faire, et en plus, il faudrait que ça ne serve à rien. Parce que si ça te sert à quelque chose, t'as quand même une arrière-pensée avec laquelle tu pratiques. Tu vois? Et donc, tu trouveras pas c'est pour ça que c'est intéressant au début d'être un petit peu forcé, tu vois? D'être un petit peu forcé.
Mais alors du coup, quand, enfin, tu vois, aujourd'hui, la méditation occidentale, c'est tu commences par te centrer sur ta respiration, et puis dès que tu as une idée qui passe et que tu t'en rends compte, tu te remets sur ta respiration, et donc l'idée, c'est d'essayer d'observer ces idées passées comme des nuages dans le ciel, et puis de lisser les flots de la rivière. En fait, tout ça, c'est bullshit. La réalité, la réalité de la méditation, c'est que, enfin, si je comprends bien ce que tu me dis, et son essence profonde, c'est de me dire, ok, je m'assieds, je fais rien, et si mon esprit il part dans ses pensées, je laisse faire, et si, enfin voilà, je laisse faire, je laisse faire. C'est ça?
Alors, la méthode. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui fait le maître? Le maître dans le dojo, il fait quoi? C'est lui qui sonne la cloche quand la méditation commence. C'est lui qui sonne la cloche quand elle finit, hein. Donc toi, assis dans la salle, c'est pas toi qui maîtrise l'aspect temporel. Donc c'est bon, on a trouvé notre recette. Pour pratiquer la méditation, il faut déterminer le temps avant. Alors soit tu vas dans un lieu spécialisé pour la pratique de la méditation. OK? C'est très bien. Tu vas, je sais pas, ce que tu veux. Tu vas chez la méditation chrétienne, Durkheim, Zen, Vipassana, tadadadadadada. Maintenant, les gens, ils veulent tout de suite être le maître, hein. Alors, ils s'asseyent chez eux en méditation, dadadada, et puis si ça se passe mal, ils arrêtent. Et si ça se passe bien, ils continuent. C'est pas ça, la méditation. C'est pas ça la méditation. Ça c'est de la self-hypnose, tu vois. C'est de l'auto-hypnose, je sais pas quoi. C'est de l'auto-satisfaction, je sais pas, ou de la mortification, ça dépend de qui. Donc tu détermines le temps avant. Il n'y a pas besoin de faire long, hein. Moi je propose différents timings. Quand je serai grand et que j'aurai des assistants, je ferai une appli moi aussi. Où ça sera 7 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 22 minutes, 30 minutes, 35 minutes et 43 minutes. OK? Il faut choisir avant. Et puis, faut se tenir à l'exercice. Il n'y a pas le droit de bouger. Si tu bouges, c'est tricher. Tu le sais. OK? Mais tu n'as pas le droit de t'arrêter avant, ni de continuer quand le temps il est fini. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tout le reste, c'est des résistances mentales qui te font croire que la méditation, c'est plus que s'asseoir et laisser passer un moment. Tout le reste, c'est que du white noise, du green noise, et tout ça, c'est ça le bullshit.
Ok, donc cette idée de vouloir se centrer sur sa respiration, ou cette idée de vouloir stopper le flux de ses pensées, c'est bullshit.
Ouais, c'est. Alors, attention. Attention. Parce que je te l'ai dit avant, Zazen, c'est un espace de pratique. C'est pas une pratique. C'est un espace de pratique. Tu prends la posture et tu fais ce que tu veux. Maintenant, les règles. Il faut pas bouger. D'accord? Donc, si moi, je fais le flic avec mon bâton et je dis, tu fais ce que tu veux, David. Mais si tu bouges, ping! Je te cogne. OK? Mais oui, mais c'est juste ça. C'est juste ça, tu restes comme ça. Si tu veux partir en voyage astral, tu pars en voyage astral. Maintenant, si tu tombes comme ça, c'est foutu. OK? Tu peux faire des apnées. Tu peux faire des apnées. Tu peux faire les respirations que tu veux. Maintenant, tu peux faire tes respirations Wim Hof, hein. Maintenant, peut-être le moine avec le bâton, il va dire, pas de bruit avec la respiration. Faut rester silencieux et immobile. Assis, silencieux, immobile. Et droit. Ça, c'est les règles. Une règle, un degré de liberté. OK? Moi, je le dis, hein, à mes élèves et même à mes maîtres. Moi, je m'amuse comme un petit fou, moi, à l'intérieur du zazen. Je m'amuse comme un petit fou. Mais les gens n'imaginent même pas. S'ils savaient, ils penseraient que je suis fou. Hein? Mais je bouge pas. Mon corps-esprit bouge pas. Des fois, mon mental s'échappe. C'est normal. Mais donc c'est pas du tout bullshit. Maintenant, ce qui serait bullshit, c'est de dire il faut toujours faire ça. Moi, ce que je recommande avec la respiration, ce que je recommande à la avec la respiration, puisque la méditation, en fait, c'est une succession d'absorption et de remontée à la surface. Il y a des moments où on suit ses pensées, il y a des moments où on suit pas ses pensées, il y a des moments où on rêve, il y a des moments où on voyage, il y a des moments où les pensées s'arrêtent. 25 000 heures, ça suffit pour regarder tous les beaucoup de détails du tableau. OK. Maintenant, il y a un moment donné où tout d'un coup l'exercice redevient normal et qu'on est, si on regardait à gauche, à droite, il y a que des tondus habillés en noir à côté, on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Putain, qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Qu'est-ce que je m'emmerde? OK? À ce moment-là, il faut se gaffer, à maintenir sa vitalité. Il faut que la posture, elle soit bien droite. Et effectivement, comme en méditation et dans les dojos zen et ce genre de trucs, les gens ont tendance à se laisser suffoquer naturellement parce qu'ils sont pas directement attirés par la vitalité, malheureusement. OK? Je pense que c'est bien quand la conscience revient et qu'elle pose cette question. Hein, la conscience, elle a tout le temps envie de faire des trucs. On fait quoi? 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 Elle veut tout le temps faire des trucs. Elle veut pas expérimenter de manière directe. Elle veut attends, attends, moi je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Ok. Donc quand la conscience, elle revient puis qu'elle dit alors qu'est-ce qu'on fait? Bon bah c'est intéressant de l'alimenter de la faire respirer. Parce que, effectivement, quand on respire, la conscience se désintéresse un petit peu de la pensée pour se reconcentrer sur la respiration. Et ça permet de nettoyer la conscience et de retourner dans des absorptions profondes. Mais, donc, il faut faire attention. C'est pas bullshit. Le truc qui serait bullshit, c'est de commencer à dire faites spécifiquement ça pendant le zazen. OK? La posture, c'est important. La posture, c'est important. Il y a un conseil sur la respiration, c'est de la laisser être telle qu'elle devrait être pendant la méditation. Moi, je dis attention aux mécanismes de suffocation, c'est-à-dire il y a des gens qui s'affaissent dans leur posture, qui s'affaissent dans leur esprit, qui s'affaissent dans leur mental, au travers de leur souffle. Ça, je trouve que c'est dommage. Et effectivement, on recommande aux gens de laisser passer les pensées. Mais le plus important, c'est de s'asseoir par terre, de prendre une posture correcte avec le dos droit et de laisser passer un temps prédéterminé de temps, si on pratique tout seul. C'est tout.
Et 7 minutes, ça suffit.
7 minutes, ça suffit, ouais. Parce qu'au bout de 7 minutes, si tu te dis, oh, c'était super, bon, ben, c'est fini. Arrête-toi. Et le moine, il arrive. Oh, 7 minutes, là. On a 17, on n'a pas dit 10. Maintenant, si tu veux faire 10, bah, tu programmes 10 minutes avant. Et la prochaine fois, tu vas avoir 10. Et puis, au bout de 7 minutes, tu vas être là. Ah là, ça fait mal au genou, là. Ouais, bah, tu continues, il y a 3 minutes encore. Parce que ce n'est pas différent de la vie. Ça n'est pas différent de la vie. Si la méditation fait en sorte, est un truc dont on a besoin pour que notre vie aille bien, eh ben c'est qu'on est en mauvais état. C'est qu'on est en mauvais état. Hein? Et à ce moment-là, il vaut mieux se remettre en forme et pratiquer simplement zazen. Mais arrêtez avec cette histoire de méditer, de laisser passer ses pensées ou de respirer d'une manière comme ci ou comme ci ou comme ci ou comme ça. Moi, ce que je recommande sur la respiration pendant la méditation, c'est quand les moines qui ont 20-30 ans de pratique et qui ont perdu leur vitalité, ils remontent à la surface des phénomènes dans leur posture. Alors à ce moment-là, ils font un effort pour réintégrer cet exercice. Ok? C'est un exercice physique comme les autres. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut surtout pas croire, les gens qui nous écoutent, faut surtout pas croire que s'ils mettent la méditation, juste la méditation dans leur vie, ça va changer quoi que ce soit. Il faut que cette méditation soit utile. Il faut changer autre chose. C'est le méditant qui doit changer. Et la meilleure manière pour le méditant de changer, c'est qu'il soit pas en contrôle de l'exercice. Faut qu'il soit en contrôle de lui-même pendant l'exercice. Posture droite, menton rentré, nuque étirée, épaules détendues, la main gauche dans la main droite, voilà, ça. Ah putain, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Mais la vie, c'est drôle. Le zen, c'est la vie. Zazen, la méditation, c'est la vie assise. Voilà. C'est aussi simple que ça.
C'est pour ça que la posture est si importante en réalité, parce que c'est quelque chose qui est directement sous notre contrôle. L'esprit, il l'est pas.
Total. L'inconscient, quand tu vas te coucher, par exemple. Quand tu vas te coucher, tu t'allonges sur le dos. Il y a un moment donné, qui c'est qui contrôle le conscient? L'inconscient, c'est très bien. Puis à un moment donné, il y a cette espèce d'ordre inconscient, attrape la couverture, tourne-toi et endors-toi. Ce truc-là, il vient pendant la méditation. L'envie de faire un truc, d'avoir un tic, de se gratter, même de penser, il vient. C'est un entraînement à s'observer soi-même, à observer comment ça fonctionne. Et si on est tout le temps en train de bouger, de penser à la brise sur la plage avec la vague qui se casse sur le sable et la respiration, on se coupe de tout l'enseignement de la méditation. On est juste en train on s'assied dans une posture qui y ressemble et on allume Netflix. Non. Donc la posture est effectivement très importante parce que la personne qui commence à être prise dans des pensées agréables, tu vois, elle va être assise en zazen comme ça, puis tout d'un coup, les pensées agréables, le menton, il va monter, on corrige la posture. Ah, j'ai laissé mon truc s'échapper. J'ai laissé mon mental s'échapper. Il y a un mondo célèbre, c'est-à-dire un face-à-face entre le maître et le disciple célèbre. Dans le zen, c'est la rencontre entre Nyojo et Maître Dogen. Alors, Dogen, il pratique la méditation à donf, à donf, à donf, à donf dans le dojo et tout. Puis il y a un mec à côté de lui qui ronfle. Et le maître, il passe, il prend sa grolle, il prend sa godasse et il tabasse le mec qui est en train de dormir. Mais il le tabasse. Et Dogen, il a tellement peur qu'il fait une out-of-body experience, tu vois. Il sort de son corps. Zap! Et puis il retourne dans son corps. Oh là là! Alors, il est hyper choqué et il pense qu'il a réalisé un truc, quoi. Donc il va voir le maître et il lui dit, en japonais, il lui dit Shinjin Datsuraku. J'ai compris, c'est Shinjin Datsuraku. Il faut abandonner le corps et l'esprit. Et le maître lui répond « Datsuraku Shinjin ». Exactement le contraire. Il faut intégrer le corps-esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Imagine que tu es assis en méditation. Tu es assis en zazen. Imagine que tu es assis en zazen. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui hurle. Kiaï ! La peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans son corps? Où il faut s'échapper et faire une expérience astralo-mystique. Ben moi, je pense pour le moment, je pense que c'est important à ce moment-là de ma vie que j'encourage les gens à rester dans leur corps, à physicaliser la posture de la pratique de la méditation. Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont tous faibles, ils sont tous malades. On peut acheter si vous êtes pas malade, vous pouvez acheter votre trauma d'enfance en ligne avec le médecin, avec le médicament qui va avec. C'est dommage. La pratique de la méditation, c'est devenu un échappatoire au corps pour les gens qui sont en mauvaise santé. Et les gens s'affaiblissent encore plus en pratiquant la méditation. Les gens qui ont fait vivre les traditions du zen et la pratique, c'était pas des enfants de cœur, hein. C'était des costauds. Maître Deshimaru, c'est un costaud. Mon maître, Maître Kosen, c'est un mec costaud. Et à mon avis, le Bouddha, c'était un costaud lui aussi. Hein, pour passer 6 ans dans la forêt sans rien, alors que la légende dit qu'il savait même pas qu'on tombait malade. Et du jour au lendemain, pouf, il s'enfuit dans la forêt. Ouais, c'est pas rigolo, hein. La plupart des gens, ils se seraient cachés. Papa, maman, on m'a menti. Hein. Il serait allé sur Internet, chercher toutes les infos. Il se serait pas jeté dans le vide comme ça. Donc, à mon avis, c'était un costaud lui aussi. C'est pas facile d'abandonner sa femme, son enfant, son palais, son fric, sa Lamborghini, là, comme les gens devraient le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le culte, c'est effectivement, tu l'as souligné avant, c'est un culte du confort. Et le confort, c'est pas bon pour l'évolution. C'est pas bon pour l'évolution. La pratique spirituelle en 500 ans avant Jésus, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un cas classique que les gens se laissent aller. On fait pas attention à notre planète, on fait pas attention à notre corps, on fait pas attention à notre mental, à nos émotions, à notre esprit, et les gens cherchent tous une solution de facilité. Le zazen, c'est pas une solution de facilité. L'apnée, encore moins.
Est-ce qu'il y a, justement, tu vois, tu dis que tu parles des maux de la société et du fait qu'on est devenu malade et faible. T'as parlé, et merci pour cet enseignement de la méditation zazen. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements du bouddhisme ou de ton histoire de vie que t'aimerais transmettre aux occidentaux qui nous écoutent?
Oui, je voudrais souligner le travail que fait Shihengyi. Shifu Shihengyi du temple Shaolin de Berlin. Moi, je suis impressionné par le courage qu'il a de se mettre en avant de la sorte, parce que quand on devient moine, notre ambition principale, c'est pas de faire des podcasts, de passer à la télé, c'est pas ça du tout. Mais il y a certains moines qui ont vécu des événements dans leur vie qui font qu'ils ont été soudainement reprojetés dans le monde et qui se sont mis en mission. Et je pense que le boulot que Shifu Shihengyi il fait pour réactualiser la pratique Shaolin au 21e siècle, je pense que c'est génial, que c'est vraiment un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple, parce que justement, il se laisse pas berner par l'influence du monde qui cherche la facilité, le confort, la superficialité. Et c'est pas évident pour un moine de monter sur les feux de la rampe et de soutenir une tradition millénaire face aux obstacles du monde d'aujourd'hui. De soutenir aujourd'hui la pratique de la méditation zen telle qu'elle est, sans fioritures, sans mentir, sans dire c'est bon pour vous, pour la santé, je vous recommande vraiment ça, là, 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 c'est super génial, ça va faire descendre votre pression artérielle. Bien entendu, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais aujourd'hui, on doit faire comprendre que si on veut véritablement obtenir un résultat dans la pratique, et il faut s'y mettre. Et je pense qu'un bonhomme comme Shifu Shihengyi, qui est un authentique moine Shaolin, je pense qu'il mérite d'être écouté. Je pense que c'est quelqu'un qui a un enseignement spirituel très profond, mais que ça se voit sur lui que l'enseignement qu'il donne, ça vient de l'expérience, et pas des livres et d'une érudition d'amphithéâtre.
Et justement, tes papas, comment est-ce que t'essaies de transmettre ces valeurs de vie, cette philosophie de vie à ton fils, tout en lui laissant faire ses propres expériences et dans une société et un monde qui potentiellement est déviant et malade?
Je suis papa d'une fille.
Ah pardon, une fille, excuse-moi. Ouais, ouais. Ça me va très bien, moi j'en ai deux.
Bravo, félicitations. Je pense que je m'efforce d'être moi-même. Pareil avec ma fille, je cherche pas trop d'édulcorant. Ok, bon, je vis séparé de sa mère, donc quand elle vit avec moi, j'essaye pas de lui faire croire à un monde de bisounours. Je partage mes pensées telles que je les vois. Elle connaît la pratique de la méditation, du zazen, parce que dans ma famille c'est normal, hein, c'est comme le brossage des dents, tout le monde apprend la méditation zen dans ma famille, que ça soit grand-papa, les oncles, les tantes, tout le monde sait de quoi il en retourne, et on pratique au moins un tout petit peu de temps en temps. Donc pour ma fille c'est pareil, elle connaît la pratique. Maintenant, c'est pas mon rôle. Mon rôle, enfin, c'est ce que je pense, hein, mon rôle de père, de mec solide, là, je dis, je suis un moine solide. Ben, mon rôle de moine solide, c'est d'être un bon père pour cette nana. Donc, quand elle a besoin de backup, je suis là. Quand elle a besoin de pognon, si j'en ai, je suis là. S'il a besoin d'une réponse à une question et qu'elle me la pose à moi, je suis là. Mais je pense pas que le monde du futur de ma fille soit aussi compromis que celui de tout un chacun. Parce que chacun crée sa réalité dans laquelle il vit. Je pense que ma fille, elle a un avenir radieux et j'y veille avec sa maman. Parce qu'elle ait un avenir radieux et qu'elle obtienne les compétences nécessaires pour avoir un avenir radieux, qu'elle comprenne le pouvoir de l'esprit sur la réalité qu'on vit et qu'elle se retrouve pas à être une personne qui va souffrir et souffrir et souffrir, alors que la souffrance, ça dépend surtout d'un niveau d'énergie. Le plus difficile, c'est une ado, hein, elle a 15 ans. Je sais pas quel âge en les tiennent. Mais à 15 ans, c'est difficile. Moi, j'ai de la peine à lui faire faire du sport.
Non, moi ça va, il y en a une de 3 ans et l'autre de 4 mois, donc je suis un petit peu moins avancé que toi. Tu parles de cette capacité qu'a l'esprit à créer sa propre réalité. Je pense que c'est quelque chose d'assez déterminant quand tu plonges en apnée, et notamment vis-à-vis de ton rapport à la mort, de ton rapport à la peur, parce que la peur peut survenir quand tu descends à 80, 90 mètres, que tout est noir autour de toi, que tu sens la pression d'eau qui t'écrase. Comment est-ce que tu gères tout ça? Qu'est-ce que tu ressens?
Effectivement, la peur, si elle surgit en profondeur, elle va prendre le corps instantanément, hein. Tu vas attraper la corde, tu vas tourner. Ok? À moins que ça soit juste un petit détail de l'esprit. C'est un énorme rendez-vous, le rendez-vous avec la peur. Ok? C'est un énorme rendez-vous, le rendez-vous avec la peur, parce qu'en fait, on sait pas véritablement de quoi on a peur. Alors, malgré moi, malgré moi, l'aventure de l'apnée, c'est une grande aventure contre la peur. Mais de quoi j'avais peur? Est-ce qu'on a peur de mourir? Si t'as peur de mourir, peut-être le curling, c'est mieux que l'apnée, quoi. Ok? Ou le ping-pong. C'est mieux que l'apnée ou le tennis. Ok, c'est pas comme si on mourait facilement en faisant du tennis. Ok, non, on se rend compte assez vite qu'on n'a pas peur de mourir. La vraie peur, c'est pas la peur de mourir. Ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Hein. Tous les gens qui nous précèdent sur cette planète sont tous morts. Tout le monde a eu peur. Bon, on a compris. Ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait depuis qu'on connaît notre vie qu'on sait qu'on meurt. Donc on n'a pas peur de mourir. On doit avoir peur d'une forme d'inconnu et tout. Alors au début, je me suis rendu compte de ça, j'avais pas peur de mourir. Ensuite, je me suis posé la question de savoir si j'avais peur de mourir de ma propre intention. C'est-à-dire de mourir et qu'en fait, ça soit un suicide inconscient. C'est-à-dire, j'avais peur d'être vraiment con. Okay? Des cons, ouais, mais des cons au point de se suicider sans faire exprès, quoi. Mais ça change rien. Et de toute façon, pour réussir ce plongeon, il faut aller au-delà de la peur. Donc, c'est pas véritablement intéressant de savoir quel est l'objet de la peur, mais surtout de savoir comment plonger. J'ai la peur des requins. Et puis, tu l'as peut-être entendu, j'ai été attaqué par un requin. Et j'ai eu peur une fraction de seconde. Ensuite, j'étais juste vigilant à mes mouvements, hyper aware, comme l'aurait dit Jean-Claude. Ok. Finalement, spirituellement parlant, je me suis juste rendu compte que j'avais peur de devenir la personne que je rêve de devenir. Peur de devenir cette personne ou peur de ne pas la devenir. Donc la peur, je pense pas qu'on soit obligé d'avoir peur pour aller de l'avant. Ok? Je pense pas qu'on soit obligé d'avoir peur pour aller de l'avant. Hein? Non. Bon, j'ai oublié la question. Pourquoi tu me posais la question sur la peur?
Bah, parce que je m'intéressais déjà à ton rapport avec la mort, à ton rapport avec la peur, et puis à ce que tu ressentais quand tu descendais à 90 mètres.
Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Je vois, enfin, il y a une partie de moi qui a peur. Peut-être avant, il y a une personne qui est là. Ah, on va jamais y arriver. J'ai peur. Oui, mais à ce moment-là, on sait comment fonctionne l'esprit. Enfin, au bout d'un moment, on a quand même compris comment fonctionnait l'esprit. Le truc, c'est que on est inconscient naturellement, automatiquement dans l'instant présent. Si la conscience, elle arrive, il y a tout d'un coup l'illusion de la dualité qui arrive. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question. Il y a quelqu'un qui croit à autre chose. J'ai peur. C'est pas toi qui as peur, c'est la personne assise dans le véhicule là. Ok. Est-ce que la voiture, elle a peur? Est-ce que la voiture, elle a peur? Non, c'est le conducteur qui a peur. Bon, maintenant, le truc, c'est normalement, il y a 95% de la plongée qui est sur pilote automatique. On s'est entraîné. Dadali, les mouvements sont justes. Ok. On s'est entraîné. L'entraînement, t'as bien compris que l'entraînement de la conscience faisait partie de l'entraînement de l'apnéiste profond. Donc la conscience, bah, c'est le passager obligatoire. Donc, il faut entraîner sa patience. C'est genre, tu descends à 80 mètres et tu vas penser patience. Mais pourquoi tu dis patience? Patience avant que ta conscience commence à penser qu'elle a peur. C'est vraiment très, très, très inopportun d'avoir peur à 90 mètres. C'est ridicule. Ça sert à rien. Ça sert à rien si t'as peur à 90 mètres, mais c'est t'as loupé ton entraînement mental. Alors maintenant, est-ce que t'arrives à te récupérer? Parce que la peur, ça fait faire des conneries, hein. Faut surtout pas faire à 90 mètres parce qu'on se déchire un poumon et on meurt. Donc la peur, il faut qu'elle soit vécue à l'instant présent. Elle est éventuellement vécue comme un frisson physiologique. Un frisson physiologique qui va faire descendre un des clapets ou fermer les trompes d'Eustache. On peut pas avoir de peur, tu vois, la peur comme une idée. Ça, c'est avant. Mais pendant la plongée, il faut que tout soit ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Si la peur, elle vient, je sais pas, tout d'un coup, je sais pas, mais je voudrais pas avoir peur à ces profondeurs. Je voudrais pas avoir peur à ces profondeurs. Imagine, tu tournes à 80 mètres de fond, puis tout d'un coup, tu tombes nez à nez sur un requin, à 80 mètres de fond. Alors là, t'as pas le temps d'avoir peur, t'as juste le temps de penser, c'est bon, je suis mort.
Et en réalité, donc cet entraînement, parce que tu disais 95% de la plongée, elle est automatique. Donc en fait, il y a aussi un gros entraînement de la qualité du geste, etc., pour que réduire au maximum la friction mentale, réduire au maximum cette charge de décision, de réflexion, pour pouvoir laisser une forme de, tu parlais tout à l'heure d'espace, de vacuité, pouvoir justement laisser de l'espace, être simplement dans cette espèce de communion avec l'eau, descendre, remonter, et puis que voilà, et presque t'abandonner à ton
Exact.
automatisme.
Exact. C'est très bien décrit. C'est comme ça que je le vois. La posture du corps pendant la chute libre, Shinjin Datsuraku. Ok. Le corps-esprit est abandonné, mais corps-esprit intégré. Donc il faut en même temps être détaché de soi, mais dans les conditions physiologiques parfaites. Donc c'est un exercice du corps-esprit qui est très marquant. Ouais, si on devait l'appeler zen, si on devait l'appeler zen, alors l'exercice zen où on s'assied, bah, c'est zazen, et puis l'exercice zen où on plonge, bah, c'est deep zen.
Pas mal. Et en fait, le parallèle qu'on pourrait faire avec la vie et puis avec la recherche d'excellence, peut-être d'intensité, de performance de façon générale, qu'elle soit physique ou mentale, c'est peut-être d'essayer de distinguer ce qui est notre responsabilité de ce qui est de l'environnement. Et ce qui est sous notre responsabilité, c'est-à-dire tous les stresseurs qui sont sous notre contrôle, eh bien viser l'excellence et de les contrôler au maximum pour avoir suffisamment d'énergie disponible pour faire face aux stresseurs extérieurs, eux qui sont liés à l'environnement sur lesquels on n'a pas de contrôle. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'entraîne beaucoup comme ça. Je m'entraîne beaucoup à pouvoir faire face aux problèmes et aux difficultés. J'essaye pas de réaliser le plongeon mystique parfait, là, 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 ou l'éveil parfait. Je suis pas du tout, je suis pas attiré ni spirituellement ni sportivement. Je suis pas attiré par la perfection, de l'immaculé, la perfection immaculée, tu vois. Donc, ma pratique de la méditation où il y a eu beaucoup de difficultés, la pratique de la plongée où il y a eu beaucoup de difficultés, c'est intéressant de pouvoir connaître la nature de la peur, mais je pense que c'est aussi intéressant de savoir y faire face et de ne pas perdre ses moyens physiques quand justement il y a un phénomène subtil, parce que je ne saurais pas dire si la peur est une émotion ou une sensation, une perception et tout. Quand il y a des sensations subtiles de ce type-là, il faut pouvoir garder le contrôle sur la discipline. Sur la discipline. Si je pratique tout seul le zazen à la maison puis que j'ai envie de me gratter le nez, c'est pas aussi grave que quand je suis dans le dojo. Pourquoi? Parce que dans le dojo, il y a les flics avec les bâtons. C'est tout. Ah. Si quand je plonge à 80 ou 100 mètres, c'est un exercice spécifique. C'est pas la même chose que quand je vais descendre simplement à 30 mètres pour m'amuser, vivre en harmonie avec les poissons et puis les mammifères marins. Donc il y a toujours plein d'optiques, mais moi j'aime bien cette optique que je partage avec toi, cette optique d'affronter les obstacles. Et de grandir en solidité parce que ma vie telle qu'elle est le requiert quoi. J'ai pas une vie super fastoc, donc je pense que ma pratique m'aide bien pour la solitude et ça ferait du bien aux gens aussi. Mais je pense que les gens qui seraient attirés par la méditation, je pense que ça serait pas mal qu'ils essayent l'apnée d'abord, même à sec avec un instructeur. Parce que en 3 minutes, en 3, 5 minutes, c'est réglé. Tu vois, tu me l'as dit, peut-être c'était hors antenne, tu m'as dit, j'ai fait 5 minutes 30 d'apnée. Mais la moindre des personnes à qui tu vas dire, j'ai retenu mon souffle 5 minutes 30, ils vont te prendre pour un surhomme. Ils vont te prendre pour un surhomme. OK? Mais au moins, c'est vrai, tu tiens 5 minutes 30. Maintenant, tous les moines ne tiennent pas 5 minutes 30 d'apnée. Moi, quand je vois des moines qui peuvent à peine porter un bol de soupe, je trouve dommage que ça soit pas servi dans le package, que le maintien de la vitalité des moines bouddhistes soit une règle.
Et
Donc
puis moi, si.
forcément, je me heurte à plein d'obstacles.
Moi, je le dis souvent, mais j'ai l'impression que choix difficile, vie facile, tu vois, à force de se confronter régulièrement à des obstacles, à rendre ton. En fait, l'être humain s'adapte à tout. Et donc, si tu l'adaptes à l'hyperconfort, à la linéarité, etc., eh ben, le moindre stress, le moindre accroc dans son quotidien et dans cette ligne droite, le stress et l'empêche de réagir de la bonne façon face à ce stress. Tandis qu'à l'inverse, si ton environnement est variable par définition, par essence, et que il est sans cesse ponctué justement de petits défis et d'obstacles à surmonter, ben en fait c'est juste ton quotidien, ton habitude et tout devient plus facile de mon point de vue. Même si
Exact.
évidemment, ça dans la société actuelle en tout cas, ça t'oblige à faire un effort conscient de rajouter de l'inconfort dans le confort. Mais
Voilà,
une
c'est
fois,
ça.
mais après, tu vois, c'est autoréalisateur. Je trouve qu'il y a un cercle vertueux qui se crée parce que tu t'aperçois aussi des bienfaits de cet inconfort, de la fierté qui le suit, de la capacité d'apprécier justement les moments de confort parce qu'ils ont un contraste. Parce que sinon,
Voilà.
sans contraste, tu vois, le luxe, qu'est-ce que le luxe en réalité? Tu peux te poser la question. Moi, quand je vais marcher en montagne, etc., quand je m'arrête après une journée de marche, un sommet que j'ai fait et que je m'arrête dans un refuge, ils me servent une soupe de légumes avec un petit peu de fromage, un petit morceau de fromage. J'ai l'impression que c'est un plat 3 étoiles. Je me régale, tu vois. Parce que par contraste de la journée que j'ai vécue, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est un moment partagé. En plus, on célèbre ce qu'on a fait et c'est un moment de bonheur. Si t'as pas ça, si t'as pas ces contrastes-là, en fait, t'es dans une fuite éternelle à voir et condamné à des plaisirs hédonistes, à devoir toujours acheter, devoir toujours consommer parce que t'as besoin de toujours plus. Il y a un facteur d'habituation qui te rend rapidement satisfait de ce que tu as déjà et qui t'oblige à cette fuite vers l'avant. Donc, je pense que une des façons de trouver le bonheur, c'est justement de continuer à jouer avec cette variabilité, avec cette élasticité entre des stimulations positives et puis d'autres qui mettent au défi notre ténacité, notre résilience et notre discipline.
J'aime bien quand tu dis que aujourd'hui c'est un effort conscient d'amener de l'austérité. Ça, c'est parce qu'effectivement c'est un effort conscient d'amener de l'austérité. Et quand on est capable consciemment de s'amener à soi-même un petit peu d'austérité, alors mon Dieu, la fenêtre de faisabilité de nos souhaits a augmenté de 250%. Si c'était marrant, je regardais un bonhomme qui parlait justement de la dopamine là, dernièrement et qui dit mais aujourd'hui les gens ils veulent la récompense avant d'avoir fait un effort. Et en fait, la dopamine, c'est un truc qui, dans le cerveau d'une personne qui fonctionne normalement, la dopamine, c'est ce qui commence à grandir quand on commence à faire un effort. Tu te dis, putain, je vais y arriver. Et on fait monter le truc jusqu'à l'accomplissement. Et aujourd'hui, en fait, l'accessibilité à tout, en fait, les gens reçoivent leur shot de dopamine avant même d'avoir fait un effort. Et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce qu'on a appelé, parce qu'éventuellement on en sort peut-être, c'est ce qu'on a appelé développer sa conscience. Ok, ouais, non, il faut avoir le shot de dopamine avant l'effort. Et c'est vrai, c'est peut-être ça le rôle de la conscience, tiens, je devrais y réfléchir. Est-ce que le rôle de la conscience ne serait pas de nous amener une forme d'inconfort? Et quand ça, elle est utile, parce que sinon, on pioterait toute la journée à rien faire, nanana.
Mais t'as raison. Mais sans la conscience, en fait, le striatum, c'est une structure de notre cerveau. Il est là pour récompenser tous les comportements qui maximisent le fait d'obtenir des ressources ou du pouvoir, et ce, avec le moins d'énergie possible. Donc, en réalité, dans notre société actuelle, sans conscience, on deviendrait des larves. Et d'ailleurs, par rapport à la dopamine, ça me fait rire. T'as peut-être déjà vu cette étude où ils ont mis ils ont shooté des souris directement d'un point de vue intracérébral à la dopamine à chaque fois qu'elles appuyaient sur une petite pédale. Et donc, en fait, ils sont aperçus que les souris appuyées sur la petite pédale, elles avaient la dopamine. Et en fait, elles passaient leur vie à faire ça jusqu'à en oublier de manger et de boire et donc de mourir. Et c'est assez marrant parce que si tu fais un parallèle avec l'être humain, c'est exactement ce que fait TikTok. TikTok, pas besoin de faire d'efforts, t'as juste besoin de scroller et t'as un mini shot de dopamine à chaque fois. Bah, c'est exactement pareil que la petite souris avec sa petite pédale.
Mais c'est pas seulement TikTok, hein. C'est pas seulement TikTok. On a malheureusement une génétique qui fait qu'on a un système de tolérance qui va avec notre propre dopamine. Dans toutes les disciplines qui nous ravissent, que ça soit TikTok, la méditation, Netflix, la plongée en apnée, la montée dans la montagne, machin. La question, c'est effectivement quand est-ce qu'on va arrêter? Est-ce que la question, ce qui serait intéressant de voir, c'est la souris, elle continue d'appuyer sur le bouton jusqu'à en crever. Maintenant, si on enlève la dopamine, combien de temps elle continue d'appuyer sur le bouton avant qu'elle se rende compte que ça marche plus? La souris, elle va appuyer une fois. Alors, au début, elle appuyait une fois, elle recevait la dopamine, puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Alors, elle va appuyer 5 fois de suite, frénétiquement et tout. Combien de temps avant qu'elle appuie plus et qu'elle se rend compte, merde, en fait, je me suis fait avoir. Et nous, nous, les êtres humains, on a un mécanisme où on est capable de, je suis sûr qu'on serait capable de vivre éternellement et heureux sans arrêt. Hein? Justement parce que la dopamine nous maintiendrait en vie sans arrêt si on avait un bon management de la dopamine. Je pense que Je suis pas sûr que l'apnée puisse résoudre les problèmes de dopamine. La méditation, certainement pas. La méditation, certainement pas. Les gens deviennent tout aussi avides à la dopamine avec la méditation qu'avec d'autres trucs, à moins que ça soit des junkies, enfin que 1 heure et demie de méditation leur empêche d'avoir un shoot plus puissant de dopamine. Ok, c'est-à-dire c'est pas mal la méditation dans le sens où ça te donne 1 heure et demie pendant laquelle la personne ne va pas se droguer ou prendre des pilules dopaminergiques. Ok, maintenant l'apnée, ça peut résoudre le stress oxydatif du cerveau et éventuellement faire en sorte que les gens s'intéressent à d'autres sources de dopamine que les sources faciles comme TikTok, les réseaux sociaux, les machins, le scrolling, les écrans, ou les pilules, les médicaments, genre de trucs.
Ouais, bah t'as un autre outil qui est hyper accessible et qui marche bien, c'est la douche froide. C'est jamais agréable de se mettre dedans, mais déjà ça t'apprend à travailler cet élastique entre ton système nerveux sympathique et parasympathique, parce qu'au début le premier réflexe, c'est de te contracter, de rentrer en hyperventilation, etc. Puis après tu t'aperçois qu'en allongeant l'expiration, tu trouves du confort dans l'inconfort. Donc il y a ce côté mental. Et puis après, d'un point de vue physiologique, il y a un shoot de dopamine qui est extrêmement important, qui permet d'être vigilant et focus un peu
Yes.
pour toute ta matinée. Et en fait, quand tu sors, tu te sens bien. Donc en fait, c'est assez marrant d'ailleurs, et je trouve que c'est une belle métaphore, parce que t'as pas envie d'y aller, ton cerveau te dit non, 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 n'y va pas, te confronte pas à l'inconfort, le fais pas. Et en fait, même si t'as l'habitude de le faire, tous les jours, il arrive à être suffisamment créatif pour te décourager d'y aller. Et
Oui,
pour
oui,
autant,
oui,
à chaque fois, quand il en ressort, il est fier de lui, il est content, tu te sens bien. En plus, t'as pas froid. Tu sais, si tu prends une douche chaude et que tu sors de ta douche le matin, t'as froid généralement, par effet rebond. Et tandis que là, à l'inverse, tu prends une douche froide, tu sors, t'as pas froid, t'es juste bien et tout, t'es frais, rempli d'énergie. Et donc, tu vois, et donc c'est pour ça que je trouve que c'est une belle métaphore, parce que à chaque fois, t'as pas envie d'y aller, et quand même, à chaque fois, t'es fier d'y être arrivé, et t'es content et tu te sens bien après. Et je trouve que c'est un peu pareil avec toutes les formes d'inconfort, n'importe quel effort, en fait. Plutôt que de parler d'inconfort, on pourrait parler d'effort. Tu vois, tout l'entraînement que tu mets en œuvre pour atteindre des profondeurs folles, etc. Ben, tout ça, c'est de l'inconfort, c'est de l'effort. Mais derrière, c'est ça aussi qui te permet de te sentir en vie, de vivre avec intensité, d'être heureux et épanoui, et de devenir l'homme que tu as choisi d'être.
Oui, je pense que c'est important de se soumettre à l'effort et en fait de développer le goût de l'effort. Ça c'est vraiment ça on devient bon quand on
Ouais,
développe le goût de
je suis
l'effort.
d'accord.
Parce que le comme tu le dis la douche froide là ou le bain froid, le plus dur c'est d'y aller, hein.
Comme pour tout d'ailleurs,
La
comme pour tout.
méditation c'est pareil, hein. Le plus dur c'est de marcher jusqu'au dojo et de sortir de son lit et de marcher jusqu'au dojo.
Sais, c'est pareil avec tous les défis, etc., de la vie. Le plus dur dans le fait de réaliser quelque chose de nouveau ou de sortir de sa zone de confort, c'est pas le fait de le faire, c'est le prendre la décision d'agir. Et d'ailleurs, moi, j'ai une façon de
Voilà.
court-circuiter un petit court-circuiter ça, c'est de prendre la décision d'agir avant de savoir si je suis prêt, avant de construire le plan.
Oui,
C'est-à-dire que, tu vois,
bienvenue au club.
Ouais, voilà, tu vois, j'ai envie de faire quelque chose. Paf, bah, imagine, je sais pas, une course ou un truc comme ça. Paf, je prends mon dossard, je m'inscris, et puis après, je réfléchis à comment est-ce que je fais pour être prêt, pour le faire, etc. Même si de base, et si j'avais réfléchi d'un point de vue pragmatique, justement, avec ma conscience, avant de prendre cette décision d'agir, bah, elle m'aurait dit, bah non, mais t'as aucune chance. Réfléchis un petit peu, regarde ton historique, etc. C'est pas raisonnable. Et donc voilà, elle essaie toujours de dynamiter un petit peu ton expansion vers l'extérieur. Donc moi, je choisis d'abord cette expansion, et puis après je mets un petit peu de conscience pour dessiner la direction des poids qui vont m'amener à mon objectif.
J'ai tendance à faire la même chose. J'ai tendance à faire la même chose. C'est pour ça que je me considère plus comme quelqu'un qui fait des performances que comme un véritable sportif. C'est-à-dire le sportif, il a une base d'entraînement, toute une équipe, et puis il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, et puis on va lui dire, bon, bah, il y a une compète là, il y a une compète là, il y a une compète là, où les compètes, ça arrive. Et moi, je préfère viser une compète en disant, bon, je m'inscris, et commencer, justement par ce processus pur de décision. J'appelle ça la décision de vie individuelle, okay, ou la décision individuelle de vie. C'est-à-dire de prendre une décision sur soi qui va avoir un impact sur notre vie. Et ça, c'est bon pour la santé. ça fait bouger la glande pinéale, là. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus personne est capable de prendre une décision individuelle de vie, hein. Même de choisir le parfum de la glace. Tu vas manger une glace avec ta copine, qu'est-ce que tu veux, les Suisses, c'est les pires pour ça. Qu'est-ce que tu veux, vanille ou chocolat? Je sais pas, qu'est-ce que tu prends toi? Toutes les décisions, qu'est-ce que t'en penses? Les votations, là, qu'est-ce que t'en penses? Il faut toujours demander à la masse. Et en fait, je crois même que c'est scientifiquement prouvé que quand
Ouais, c'est le biais
la glande
social.
pinéale fonctionne pas bien, la seule chose qui change, c'est qu'on n'est pas capable de prendre des décisions individuelles de vie. Il faut qu'on demande aux autres ce qu'ils en pensent. On devient un mouton, en fait. On devient un mouton. Et quand on prend cette décision individuelle de vie, elle doit générer un petit truc hormonal, un petit shoot d'adrénaline, là. Il faut que ça fasse un peu peur pour que le système se réadapte. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. À la fin, c'est pas la méditation, c'est pas l'apnée, c'est se soumettre à un truc inconnu dans lequel on va devenir plus grand. Et d'avoir investi la foi dans la méditation ou d'avoir investi la foi dans l'apnée comme une espèce de garde-fou ou d'un temple intérieur où on se retrouve l'espace d'un moment, bon, bah, chanceux sont les gens qui ont ça. Mais je pense qu'on devient véritablement soi-même qu'en prenant des décisions individuelles par rapport à ce qu'on veut véritablement accomplir. Et que ça, bon, bah, quand on est un garçon, ça prend des couilles quand même. C'est pas, non, mais c'est pas une décision facile. Quand on a envie en famille, on a tendance à demander à son épouse, ou alors quand les enfants sont grands, aux enfants. Quand on est plus jeune, on demande aux parents, on demande aux copains. Ensuite, il y a des lois qui nous interdisent de faire ci et de faire ça, et on peut pas faire ce qu'on veut tout le temps, qui ne rentre pas en contradiction avec des règles. Tandis que se décider à faire une performance sportive, ben, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Quand les gens me disent, par exemple, les moines, ils ont le droit de faire la compétition, je dis, mais les moines, ils ont 10 règles, hein. On a 10 règles, il y a 10 préceptes. Et dans la compétition, des règles, il y en a 8 pages A4 recto verso, quoi. Il y a beaucoup plus de règles dans la compétition que dans la vie monastique. Donc, c'est en plus une intensification de la pratique monastique d'aller sur une compétition, quoi. Hein, c'est fantastique. Je suis content que tu évoques ce truc de la décision personnelle et que tu dises que tu le fasses comme ça. Parce que c'est effectivement un mal que j'ai repéré chez les gens. Ils cherchent l'ego, l'ego, ah, l'ego, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-là. Ah, l'ego, c'est celui qui me donne pas ce que je veux quand je le veux. Et en fait, pour moi, l'ego, c'est cette personne à l'intérieur qui sait pas et qui est incapable de se décider. Tu préfères quoi, la glace à la vanille ou la glace au chocolat? Chocolat. Tu réponds tout de suite, t'assumeras après. Tu manges ta glace au chocolat, merde, en fait, je préférais la vanille. Bon, voilà, au moins, t'as répondu tout de suite.
On en revient aussi un petit peu à cette intuition dont on parlait plus tôt dans le podcast, tu vois, et cette espèce de dichotomie entre d'un côté l'intuition, l'inconscient, de l'autre côté la conscience, l'ego, et peut-être qu'à force de tout rationaliser, à tout, tu vois, il y a aussi cette évolution de la science qui a été très, très réductionniste et qui a cloisonné les choses, et peut-être que voilà l'excès de rationalité et le fait d'essayer de toujours trouver la décision juste, la perfection, l'optimisation ultime, et de juger en plus la qualité de nos actions par le résultat qu'on a obtenu plutôt que par le chemin et la qualité de la décision au moment où on l'a prise, c'est une absurdité parce qu'en réalité, on ne prend pas en compte l'environnement là-dedans. Tu vois, tu peux avoir pris une excellente décision au moment où tu l'as prise avec les informations que tu avais et malgré tout avoir un mauvais résultat. Et à l'inverse, tu peux avoir pris une mauvaise décision et avoir un bon résultat parce que tu as eu de la chance. Enfin, et ce que je veux dire par là, c'est que je pense, j'ai l'impression que ça donne une espèce de pression à l'humain d'être toujours juste, alors que la justesse se trouve justement, à mon avis, dans cette intuition qui est à la base de toute décision et qui tire parti de toutes les expériences passées. Au final, l'intuition, c'est quoi? C'est la somme de toutes nos mémoires, de toutes les expériences qu'on a vécues dans notre vie. Et notre cerveau, qui a une capacité incroyable à les interroger en un milliardième de seconde, pour émettre un avis, une envie, un enthousiasme et une propension à aller vers quelque chose. Et ce qui empêche cet élan et cette énergie positive de se réaliser, bah souvent, c'est justement cette, je sais pas, donc si on parle de conscience, d'ego, etc., qui vient par derrière dire oui, non, mais attention, si tu fais ça, comment est-ce que tu vas être vu par les autres, si tu échoues, si tu fais ceci, s'il se passe ceci, s'il se passe pas cela. Et tu vois, cet excès de post-rationalisation de la décision initiale et de ton envie initiale, eh ben, au final, te condamne à l'immobilisme. Un immobilisme d'ailleurs qu'on pourrait mettre à profit en faisant du zazen.
Ouais, attention, hein, attention c'est ce que je te disais au début avec la méthode Wim Hof. Connais tes chiffres. Connais ta statistique d'intuition. Parce que l'intuition, ça peut se développer.
Elle se développe par toutes les expériences de vie qu'on a.
Voilà. Et donc, il faut en prendre plus. Il faut faire plus d'expériences. Je pense que c'est important de développer son intuition consciemment aussi. Ok, parce que elle ne peut pas. C'est pas. Par exemple, pour les records sportifs, il faut faire attention avec l'intuition. Ok, parce que tout d'un coup, tu vois, un record sportif, c'est tout pour le target. Et l'intuition, ouais, mais là on pourrait bien se tuer là. Alors c'est une intuition ou c'est un obstacle de la conscience. Tu vois, ça m'est arrivé quand j'ai fait les 100 mètres, ça m'est arrivé à 93 mètres. L'intuition, ça va pas le faire, et la réaction immédiate, je prends un risque et ça l'a fait. Ok. C'est bien de toujours rester en une pièce. Au début, je disais pour parler d'apnée, parce que c'est plus métaphorique que la méditation. Il faut avoir la foi et la foi, et garde-la bien bien profond à l'intérieur de toi. Et ensuite, je me suis rendu compte que la foi, elle est de toute façon tout le temps profonde. C'est tout le temps un truc super profond. Il faut juste rester en une pièce. Il faut que ton intuition et ta capacité de calcul soient présentes en même temps pour des performances sportives. Dans la vie, à mon âge, il y a des trucs, si je devais changer, je me suis dit, il y a peut-être des trucs que j'aurais calculé un petit peu plus, mais je me serais peut-être moins amusé. Je sais pas, j'arriverai pas à privilégier l'intuition sur le calcul. Parce qu'en fait, il faudrait surtout, c'est le résultat qu'il faudrait juger, pas véritablement la méthode. Par exemple, tu vois cette table, il y a différentes personnes, hein. Tu vois une pomme, une jolie pomme sur une table, et il y a les gens qui vont avoir l'intuition qu'elle est bonne et la prendre, et les gens qui vont réfléchir de savoir si ça vaut le coup, dalala. Il y a beaucoup de gens qui vont leur conseiller, si tu dois réfléchir avant de prendre le truc, prends le pas. Ok. Je suis pas sûr. Je pense que les deux approches sont bonnes. Il y a des plongées que j'ai fait qui étaient complètement intuitives, où je suis arrivé au bout et je me suis dit, j'aurais dû annoncer 10 mètres de plus. Et puis, il y a des plongées à cette même profondeur qui étaient hyper calculées et qui étaient en fait bien plus gratifiante pour l'expérience que de suivre l'intuition.
Après moi, j'oppose pas forcément les deux. Je dis juste que je pense que ce premier élan qui est l'intuition est souvent un juste guide, mais que derrière la cognition, le cortex préfrontal, notre capacité d'analyse, etc., doit être à son service. Et c'est là où tu remets de l'intelligence. Et souvent, j'ai l'impression que les deux jouent l'un contre l'autre. C'est-à-dire que tu as ton intuition qui te pousse à faire quelque chose et ta cognition qui va essayer de mettre des garde-fous pour t'empêcher d'avancer. Alors que je vois plutôt l'intuition comme la flèche vers ta prochaine étape et puis la cognition comme la façon la plus sûre de l'atteindre.
D'accord. Ça me fait penser à, c'est David Goggins qui dit un peu ça. Il y a deux voix. Il y a une voix qui c'est la partie intuitive qui dit, ah, il faudrait vraiment que t'aies faire ce jogging. Et puis l'autre qui dit, mais non, mais t'es bien à la maison à regarder Netflix et tout. Ouais. Moi, j'ai l'aspect cognitif de l'approche d'une performance. Comme j'ai pas le, il reste aussi très intuitif. Disons que ça va plutôt il reste très intuitif aussi, puisque j'ai pas de coach, j'ai pas d'entraîneur. Donc pour les exercices physiques, donc j'essaye véritablement de faire de l'intuition une compétence. Entre la méditation et la pratique des extrêmes, ça va m'aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Maintenant, dans la vie, je suis pas aussi doué qu'en apnée, hein, parce que justement l'intuition en apnée pendant une plongée, elle doit être backupée très très vite, très 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 vite. Est-ce que tu peux pas attendre 3 secondes pour prendre une décision? Okay, s'il y a une intuition qui surgit, si la conscience surgit avec son intuition, il faut décider instantanément ou voir avoir le système de décision inconscient. Qui arrête la plongée. C'est très intéressant. Tu sais, pour moi, de faire la plongée en apnée, ça me libère aussi beaucoup de ce carcan dont on parlait au début, de ce carcan monastique. Le fait que dans la compétition, dans le sport, on puisse se mesurer les uns aux autres. Il y a des mal-alpha, il y a des gars qui te regardent en te disant « bon, tu vas faire une syncope ». Des filles qui te regardent waouh parce que t'as réussi ta plongée alors que tout ça tu l'as dans la pratique du bouddhisme, tu l'as dans la religion, cette espèce de compétition pourrie, mais elle est pas formelle et directe. Donc je pense que pour les gens qui nous écoutent, je pense que de faire des trucs qui nous semblent un petit peu contre nature, qui vont à l'opposé de ce qu'on pense. Hein, c'est pour ça que je soulignais David Goggins, parce qu'il dit, ouais, il faut faire des trucs qui te font chier, quoi. Une fois par jour, il faut faire un truc qui te fait chier pour retrouver le goût de l'austérité et ainsi retrouver le goût de l'effort, bah, qui sert justement par exemple, pour la pratique de la méditation. Quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'entraînement sportif et de la difficulté de l'entraînement sportif, il rechignera pas à la partie d'entraînement de la méditation. Maintenant, quelqu'un qui a pas l'habitude ni de la méditation, ni de l'entraînement sportif, qui commence avec la méditation, bah, c'est trop dur. Le plus facile, ça serait de commencer juste à respirer, coucher dans son lit, quoi. Pour simplement retrouver d'abord le corps, ensuite le mettre en mouvement pour aller jusqu'au dojo et tout, avant de tenter le stade larvaire, là, comme tu l'as dit.
À un moment donné. Bon, écoute, Loïc, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie pour ton temps. Si on veut te suivre, aller plonger en apnée avec toi, etc., comment ça se passe?
Alors, si vous voulez plonger en apnée, d'abord, je voudrais souligner le fait qu'en Suisse, il y a plein d'instructeurs absolument géniaux. Il y a Arnaud Carnal, Estelle Meyaubert, Vanessa Falciola, Jonathan Amio, Alex Witchill. Ces gens-là sont d'excellents instructeurs. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller à l'autre bout du monde pour tenter l'expérience apnée. Maintenant, si vous vous intéressez à mes petites aventures, le plus facile, c'est mon site web, c'est deepzen.net, D-E-E-P comme deep, et zen comme zen.net. Et puis, à partir de là, y a des liens sur mes réseaux sociaux, si vous êtes plus Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. J'essaye de me diversifier et de me rendre disponible. C'est pas facile, hein.
On pourra du coup suivre l'avancée de la préparation de ton nouveau record et puis sa réalisation dans quelques mois, 3 mois.
voilà, ça commence avec la fin de ce podcast. Ça commence avec la fin de ce podcast. Je peux m'entraîner à fond, me dédier seulement à l'entraînement et aux gens qui me soutiennent dans ce sens-là.
J'aimerais Loïc, beaucoup. Un immense merci de m'avoir dédié tout ce temps pour ces partages et ces perles merci de sagesse. Et là, c'est vraiment le cas de le dire. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un petit message que t'aimerais partager pour la fin?
Ouais, je pense que si tu me le permets, je pense que il faut pas avoir peur de son propre reflet, qu'il soit social, spirituel, émotionnel, mental et même physique. Il faut pas avoir peur de son reflet. Il faut s'y confronter. Et je pense que c'est bien de faire un effort. Si quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous aimez pas comme vous êtes, eh ben allez à la gym. Si quand vous vous regardez votre esprit, vous vous aimez pas comme vous êtes, eh ben faites plus d'efforts mentaux. Si vous regardez vos émotions, vous les aimez pas, faites des efforts. Faites des efforts physiques, mentaux, émotionnels, spirituels, sociaux. Et même sur les réseaux sociaux. Faites des efforts pour devenir des gens dont vous aimez le reflet. C'est ça dont on a besoin. Et même le miroir, quand vous regardez votre corps, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est ça que je voudrais dire. Et c'est parce que je sais que j'ai été un petit peu, je suis un peu incisif et dur. Et puis que les gens sont là, oh, le moine zen, il est dur, nanana. Je pense que vous devez retrouver le moine discipliné ou la non disciplinée en vous et aller de l'avant et construire la personne et le monde que vous voulez pour les gens que vous aimez autour de vous. C'est ça que je voudrais dire pour finir. Ne chipotez pas, n'ayez pas peur, entraînez-vous. Voilà.
Magnifique, c'est super. Merci beaucoup Loïc.
Merci, c'est sympa de m'avoir laissé dire ça.
À bientôt.
À bientôt, ciao.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.